Et bonjour à toutes et à tous.
Salut tout le monde. Bienvenue.
Salut
dans...
Rémi.
Salut Ortonin.
Bienvenue dans votre Blabla 4, vous êtes bien arrivés. Alors,
installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise.
Détendez-vous.
Prenez peut-être une petite boisson, histoire...
De votre choix, nous. Écoutez, on a ce qu'il faut.
On a ce qu'il faut.
Et c'est parti.
Allez, on y va.
En route. Blabla Couch.
Du blabla et un canapé.
Eh ben, comme d'habitude, mon cher Antonin, je vais te poser la même question pour commencer. Comment vas-tu ?
Eh ben, écoute, très bien. Et toi, en ce début de décembre ?
Eh ben, écoute, ça va très très bien.
Ouais.
Je suis très content qu'on soit en hiver. Ça faisait longtemps que j'attendais ça.
C'est un peu frais, mais écoutez, on a bravé le froid pour vous.
Exactement.
Quel est le thème du jour, mon cher Rémi ?
Alors, aujourd'hui, on va remettre le cartable. On va ressortir les cours, on va ressortir les cahiers. Parce que...
Les stylos, les petites trousses.
Le thème, ce sera donc l'école.
Ouais, l'école. Première question.
Les études aussi, on a grand, on,
lycée,
on
collège, primaire, tout ce qui est dans le cadre de l'éducation nationale.
Voilà. Ah oui, jusqu'au bac.
Non, mais même,
même
plus.
Au-delà,
enfin, okay. Je sais pas, on verra bien.
Vers le bac et au-delà.
Vers le bac et au-delà, tout à fait. Rémi, première question, quel a été ton agenda préféré ? Celui que tu as eu,
oh,
celui qui déglinguait le plus.
Ah ouais, on commence directement sur le quiz. Ok, alors je crois que je vais partir sur mon agenda. Ah, c'est dur. L'agenda.
L'hésitation est totale. N'hésitez pas à nous dire aussi.
J'hésite entre l'agenda l'étudiant noir classique, tu sais, le grand classique.
Ouais.
Et mon cahier de texte avec un panda dessus.
Ah, pas mal. Alors moi, ouais.
Le cahier de texte avec, tu sais, le lundi, le mardi, le mercredi.
Ah oui, carrément, oui, mais primaire, quoi.
Ouais, ouais, bah ouais, ouais, je crois. Non, je l'ai eu jusqu'au collège et c'était
toujours le même,
grave.
Toujours la même année.
Bah, en fait,
t'as la galère, non ?
Non, en fait, je me souviens particulièrement de celui avec le panda
les jours.
Parce que tout le monde au collège, tu sais, a son agenda comme
sûr.
Les grands avec. Voilà. Et moi, j'étais le seul encore en 6ème à avoir un cahier de texte avec un panda dessus.
Le cahier de texte, c'est vrai qu'il fait mal.
Et
moi, je tiens à dire, première question, je m'en suis rendu compte quand tu l'as dit, mais voilà, on a déjà deux teams, on a agenda. De
et
ma part,
cahier.
Et agenda de la part de Rémi.
Ah voilà, oui,
là,
oui.
Là, c'est important, c'est un grand débat déjà.
Non, il y a déjà.
Qui se lance tout de suite. Tout de suite, déjà grand débat.
Moi, je suis dans la team cahier de texte de toute façon.
La tristesse. Moi, mon meilleur agenda, clairement, année de terminale, mon agenda Hello Kitty.
Ah ouais.
J'étais le genre de mec qui avait l'agenda Hello Kitty et la trousse Bob l'éponge que j'ai encore. Et ça, voilà, j'étais un petit peu le mec un peu décalé, tu vois, en mode.
Ah ouais, toi, t'étais.
C'est ridicule, mais vu que je l'assume, c'est hyper classe.
Est-ce que t'étais le genre de mec qui ramenait aussi toute la panoplie du parfait écolier ? Genre, t'avais l'équerre, le. Tu sais, le truc.
Rapporteur.
Le rapporteur,
le
compas, le demi-cercle.
Alors, déjà, j'ai maths, non, déjà. J'ai jamais eu d'affaire de maths, déjà. Et puis, clairement, moi j'étais plutôt le genre d'élève qui te demandait à chaque fois, t'as pas une feuille double ? J'oubliais okay. Ma trousse. En fait, je faisais pas mon sac la veille.
Oh putain.
Tiens, moi, je me rappelle de grandes engueulades avec mes parents où il fallait faire le sac la veille et où je le faisais pas, et où clairement je le faisais le matin. Je me levais à la bourre, j'étais tout le temps en retard en course, et voilà.
Putain.
Et du coup, je le faisais le matin, ce qui m'en est encore plus en retard, et du coup, je voulais la moitié de mes trucs et j'ai déjà passé des journées sans trousse, ou sans cahier, ou sans livre. Voilà.
Et comment tu le vis aujourd'hui ?
Et bah maintenant, je suis une merde. Maintenant, voilà, je suis un rebut de la société, je m'en reviens compte.
T'as voilà. Réussi à te construire en tant qu'humain
Très peu, hein, ça se voit, tant moralement que physiquement, je suis très middle, quoi. je suis très moyen niveau humain.
C'est pas ouf.
Écoute, après, on se posera la question un peu, quel type d'élève étions-nous ?
Ouais.
N'allons pas trop vite en besogne. Écoute, première recommandation, un premier petit truc, là, à nous donner.
Ouais, on commence à envoyer un
Allez, bon, on va. Alors, on vous prévient, on n'a pas des masses de recommandations cette fois-ci.
Ouais.
Mais on aura une petite surprise. Un petit quelque chose pour vous, pour vos...
Pour compenser, peut-être.
Alors, Rémi, bah, je vais me lancer parce que je crois que j'ai un peu plus de
ouais,
recommandations que toi.
Plus.
Je vais commencer par un truc que je ne vais pas vraiment vous recommander. parce que j'aime bien, mais c'est pas... Enfin, voilà, c'est très connu. Et j'aime bien ce film, mais sans plus. Donc, c'est un film, c'est Good Will Hunting, ou Will Hunting en français.
Ouais.
De Gus Hansen avec Robin Williams et Matt Damon. J'ai pas noté la date, donc je saurais pas vous dire la date. Moi, je dirais... années 80-90,
ouais.
Ce zoo-là, et c'est l'histoire d'un gamin qui a du à Boston, qui est un ado, et lycée, qui a du mal à l'école, qui fait des conneries et tout ça, et qui à un moment se retrouve dans des histoires de bagarre régulièrement et tout ça, et là c'est la bagarre de trop, et en gros, soit il décide d'aller chez le psy et de faire un travail sur lui-même et tout ça, soit sinon il doit aller en juvenile, donc en prison pour jeunes ados, quoi.
Ah oui, des espèces de travaux ou...
Non, mais carrément comme une prison pour des ados, quoi. Une sorte d'orphelinat, enfin, tu sais, maison de correction. Voilà, maison de correction.
Ok, d'accord. Okay.
Voilà, donc du coup, c'est vraiment chaud, et donc du coup, il va de psy en psy, et ça se passe pas bien et tout ça, et en fait, il rencontre un psy, donc Robin Williams, donc c'est Matt Damon, le jeune. Robin Williams, c'est voilà, leur relation va s'étayer et tout ça.
Ah, mais alors Matt Damon était vraiment gamin, du coup.
Oui, pardon.
Enfin, gamin, ado, quoi.
Ouais, c'est des 80, quoi, donc il... après, il a clairement 25 ans, il joue un rôle d'un gamin qui est censé en avoir 16 ou 18, quoi, à l'américaine. Mais voilà, très sympa, très plein de bons sentiments, des très scènes ultra connues. La fameuse scène qu'on connaît tous de l'équation sur un tableau.
Ah ouais.
Qu'on résout, bah voilà, c'est ça en fait. Donc il fait une tige. Okay. Il fait une tige, donc un travail d'intérêt général où il doit balayer son lycée, ou un lycée, et un prof, dans l'université même, et un prof laisse un truc de maths, et lui il le voit, il fait oh, bah c'est facile, je le fais. Et en fait, c'est un espèce de truc insoluble. Et ils le refont, en fait, on se rend compte que c'est un génie et tout ça.
J'ai vu une référence à ça il y a pas longtemps dans Rick et Morty peut-être.
Oui, Rick et Morty, tu devais l'avoir, c'est dans tous les trucs de pop culture alliés. T'as plein de références comme ça, t'as aussi un discours ultra connu de... Il y a Ben Affleck aussi, qui est dedans. Enfin, voilà, c'est un film un peu classique, mais voilà, qui est sympa, plein de bons sentiments, avec des scènes classiques, et voilà, je vous recommande, si vous connaissez pas, jetez-y un œil, c'est sympa.
Ok.
C'est franchement sympa. Rémi, à toi.
Eh ben moi, je vais continuer dans le thème dans les films.
Dans le thème des écoles.
Dans le thème
des mythologies, quoi.
Je vais sortir du thème un peu.
Je vais dire Star Wars 4, il est trop bien.
Je vais continuer avec un film qui s'appelle... Bon, là, par contre, ça va être beaucoup moins... remarque, en fait, c'est pas si fun que ça, ce que tu nous as fait, mais...
Non, Google Ending, c'est pas très fun.
Bah, écoute, on va rester un peu dans ce mood-là. Je vais parler de La Vague.
Ah oui,
2008, donc, film allemand, réalisé par Denis Gansel. Gansel, je sais pas comment ça se prononce.
Tu me regardes avec des yeux comme ça, je savais, tu sais, c'est pas mon cousin, genre ça.
Bref, ça a été inspiré par un bouquin qui s'appelle La Troisième Vague. Enfin, un bouquin. En fait, c'est plutôt une... Les récits d'une expérience d'un professeur.
D'accord.
Un professeur qui s'appelle Ron Jones et qui, en Californie, en 67, a fait une expérience sur ses élèves. Des élèves de première, si je ne me plante pas. Mmh. En gros, pour leur montrer ce que c'était qu'un régime
autoritaire,
ouais, une dictature, en fait, il a voulu, en gros, leur faire éprouver, enfin, le mettre en place pendant une semaine dans la classe, en gros. Et ce qui s'est passé, enfin bon, j'ai pas du tout lu le truc, j'ai pas du tout, enfin, bon, vous nous connaissez, on n'est pas des experts,
on répète ça, c'est longtemps qu'on l'a pas dit, on est des experts en rien du tout,
voilà.
Donc ne crachez pas dessus.
Nous avons ne pas citer nos sources, ne pas vérifier nos sources.
On adore, ouais, comme Bad News.
Exactement.
Denis Mourier, allez pour toi celle-là.
Si tu nous écoutes.
Pas du tout. Je ne pense pas.
Et donc, ce film qui reprend, cette expérience-là et comme l'expérience, même si apparemment au niveau des sources, on n'est pas vraiment sûr que ça ait vraiment mal tourné, mais en tout cas, y a eu un intérêt très fort des élèves pour ça. Et comment dire, ils ont pris le truc tellement à cœur qu'ils sont un peu emportés peut-être, qu'ils sont allés un peu trop loin avec cette idée-là, avec l'autorité, en fait, ça a provoqué un tel engouement, en fait, ce fait de se sentir...
Ça a dégagé plein de violence et tout ça.
Exactement, ouais.
Et alors, je dis peut-être une connerie, alors, il y a une expérience qui est super connue, dont je me rappelle plus le nom, mais qui n'est pas le nom du gars que tu as cité, qui est alors, pareil, c'est un peu, tu sais, genre de truc, pas creepypasta, mais c'est un peu plein de légendes urbaines aussi, enfin, je pense que c'est un truc qui a existé, mais qui a été vachement, je crois, repris par la... par l'univers de fiction, et du coup on sait plus trop, enfin moi je sais pas du faux. Mais il y a un truc comme quoi des chercheurs américains aussi ont fait une étude comme ça avec des élèves de fac par rapport à la prison, et il y avait des élèves qui jouaient le rôle des détenus et les élèves qui jouaient des matons, les matons sont devenus ultra violents et ils étaient un peu encouragés là-dedans justement, et en fait eux arrivaient plus à faire la distinction, et t'as... Alors pareil, attends, je me lance dans des terres là où il y a des gens qui sont en train de péter des câbles et qui ont fait fac de psycho ou de philo et qui sont en train de poignarder au visage virtuellement. Je crois que ça rejoint, enfin que ça a un peu servi aussi aux théories du respect des ordres et tout ça, avec aussi le jeu de... Oh putain, ça n'a aucun sens. Il y a aussi une autre étude qui a été faite, une étude scientifique avec un faux jeu télévisé.
où on envoyait des décharges,
devant envoyer des décharges, des fausses réponses. Des scientifiques disaient d'y aller, et en fait, c'était les faux candidats qui disaient avoir très très mal et de ça. Et genre 80% des gens continuent à envoyer des décharges.
Alors,
je crois que ça, tout ça a servi pour les études, qui ont notamment servi pour les procès des nazis, d'essayer de comprendre comment on peut respecter des ordres. Enfin voilà, est-ce que les mecs étaient tous des monstres, ou est-ce que c'est des gens qui respectaient des ordres bêtement? Et même pour des actes horribles, et après, en philosophie, il y a Hannah Arendt qui a traité tout ça aussi du côté plus philosophique de la chose. Mais voilà, je crois que tout ça fait un peu partie du même truc. Désolé, revenons à la règle.
Pas du tout, mais exactement, en tout cas, c'est pas, peut-être pas tellement lié à l'école, mais en fait, je voulais en parler parce que je trouve ça intéressant que justement ce soit dans le cadre de l'école qu'ils aient. Enfin, qu'il y ait ces études-là et ce film-là, parce que l'école, c'est quand même un moment de notre vie où on est dans un cadre où. C'est les premières fois où on se retrouve confronté à des règles, où il y a une autorité qu'il faut respecter, et en fait, c'est la première fois où on est mis face à la société, en fait, à avoir des règles et même des devoirs, en fait. Enfin, des lois, quoi. Et j'ai trouvé qu'en tout cas, ce film assez... ça faisait assez froid dans le dos, quoi, par rapport à la puissance que peut avoir l'autorité sur nous, et ce qu'elle peut nous faire devenir, en fait. Et c'est un truc assez connu.
C'est un truc qui est
beaucoup montré d'ailleurs dans les. Je crois que je l'avais vu au lycée.
Je me rappelle que la vague, quand c'était sorti, ça avait fait un raz-de-marée. J'adore l'humour. Mais il me semble vraiment qu'il y a plein de gens qui en ont parlé.
Ouais,
mais la vague, carrément. Moi, je sais pas pourquoi la vague, ça me fait toujours penser à Entre les Murs. Et j'ai toujours cru que c'était le même mec, et pas du tout, parce que t'as dit que c'était allemand et Entre les Murs, c'est français.
Oui.
Dites-moi si j'ai une raison de penser ça ou pas, ou si je suis juste hyper chelou.
C'est la version.
Dès que j'entends la vague. Bah non, pas du tout.
Pas du tout.
C'est vraiment juste la vie dans une classe, mais...
D'accord.
Ça s'adore d'ailleurs Entre les Murs, si vous connaissez pas, ça se regarde. Ouais, mais je le recommande.
Tu l'as vu ?
Oui, mais je le m'y recommande. C'était à longtemps, je me rappelle pas. Je crois que ça m'avait un peu saoulé, mais c'est un bon film quand même. C'est un film important. La vague. J'ai toujours eu envie de le voir et j'ai jamais sauté le pas, donc pourquoi pas ?
Ouais.
Pourquoi pas ? Écoute, moi je vais aller sur un petit... Allez, un autre film dont je voudrais vous parler, La Journée de la Jupe, de Jean-Paul Lienfield. J'écris super mal, donc je crois que c'est Lienfield. Sorti en 2009 avec Isabelle Adjani et entre autres Denis Podalydès, pour les gens un peu connus. Ça se passe dans un lycée, c'est La Journée de la Jupe, donc la prof vient en jupe au lycée, c'est dans un lycée difficile. Et la prof vient en jupe et de là se crée plein de choses et c'est assez dur comme film et ça m'avait beaucoup beaucoup plu 2009, donc moi j'étais assez jeune et c'est un truc qui m'a éveillé à plein de choses et c'est un film sur ça se passe dans une école, mais pareil, souvent finalement on s'est rendu compte avec nos recherches que souvent l'école c'est un cadre pour parler de plein d'autres choses, mais les films qui parlent vraiment de l'école, enfin les œuvres qui parlent vraiment de l'école soi, souvent c'est un vecteur pour porter d'autres idées. Là par exemple c'est un truc vachement sur le féminisme, la place de la femme. Et en fait, comme tu disais, l'école c'est vraiment une petite société, c'est la société ramenée à une classe de, enfin sur 30 personnes quoi,
c'est ça, ouais,
c'est vraiment, ou sur 1500 personnes, mais c'est un espèce de microcosme comme ça qui est une espèce de mini société à l'image de la société quoi, et du coup souvent c'est un vecteur pour parler d'autres choses, et là c'est un film qui parle pas mal de féminisme, de la femme et tout ça, super intéressant. Moi j'ai trouvé ça très bien fait, ça fait pareil longtemps que je l'ai pas vu, donc j'espère que c'est toujours aussi intéressant avec les pensées actuelles, Mais moi, je me rappelle, c'était un film dur, qui se passait presque en temps réel, quoi. C'est-à-dire que le film dure 1h30 et t'as presque 1h30 dans la journée, quoi.
Ouais.
C'est le genre de truc assez fort en général au cinéma.
Ouais, ça
te
tient en haleine.
Ouais, carrément. Franchement, très très bien. Et c'est le genre de film où tu sais pas où ça va et ça arrive à te surprendre. Et franchement, voilà. Recommandation, je trouve ça assez chouette.
Ok. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on enchaîne ou on continue encore quelques recommandations?
Moi, je proposerais tout de suite de passer à une première rubrique.
Ouais.
Une première rubrique.
Allez, première rubrique.
Eh ben, écoutez, préparez-vous pour Rémi.
Do, Rémi. La musique à Rémi.
Rémi?
Ouais.
Quelle est la musique à toi aujourd'hui?
Quelle est la musique à moi? Je crois que ça va être assez obvious aujourd'hui. J'ai pas tourné autour du pot pour cette recommandation-là, enfin pour cette rubrique-là. Pour la recommandation, je me suis galéré, mais là, je suis directement allé sur Another Brick in the Wall, des Pink Floyd donc.
Pink Floyd.
Morceau qui a été composé par Roger Waters, membre Pink Floyd qui... Je crois qu'il fait partie des membres qui sont restés super longtemps, parce que les Pink Floyd, ça a beaucoup bougé au niveau des membres. Lui, il me semble qu'il a été là depuis très tôt. Bon, je sais, je vais pas dire de conneries, mais en tout cas...
Mais c'est pas lui qui est parti à un moment où justement il y a un peu deux airs des Pink Floyd.
Alors oui, au début, il me semble, si je me plante pas... ça m'énerve, j'ai pas son nom.
Ok, alors moi, je m'excuse, tous les fans des Pink Floyd qui arrivent de nous entendre, si mon beau-père écoute, tu nous apprendras un peu plus l'histoire des Pink Floyd. C'est un grand fan.
Et bah exactement, en tout cas donc sur qui Another Brick in the Wall, donc qui est un morceau qui est sur l'album The Wall, donc sorti en 79. Et donc je me suis renseigné parce que moi je connais pas très bien les Pink Floyd, même si ça m'a toujours un peu intéressé, mais enfin j'ai toujours été un peu distant, je sais pas, j'ai écouté d'autres trucs. Et donc j'ai découvert que c'est un double album, une espèce de concept album, un truc bah, comme aiment beaucoup le faire les Pink Floyd.
Oui, j'allais dire un peu comme tous leurs albums.
Ouais, ouais, vraiment un truc
très étrange.
Très expérimental, enfin, qui tente des trucs. En fait, ce que je savais pas sur ce morceau, c'est en fait qu'il est en trois parties.
D'accord.
Et donc, en fait, finalement, la partie qu'on connaît le plus, enfin, celle qu'on connaît tous, c'est la partie 2. C'est en fait le vrai titre du morceau, finalement. C'est. We don't need no education. Voilà. Tout ça, tout ça.
Vous allez entendre. Là, je vous ai fait un petit teaser. Vous allez entendre la version complète en fin d'épisode.
Et ben, au final, ce morceau, c'est Another Brick in the Wall, part 2, en fait. Ouais. Parce que c'est un album qui raconte une histoire. L'histoire d'un monsieur qui s'appelle Pink. Et qui construit un mur, en fait.
Pour son con, ils l'ont pas appelé Floyd, ils l'ont appelé Pink.
ils l'ont appelé Pink.
Ils sont ratés, les mecs, quoi.
Et donc, ce mec construit un mur. Au début, il a l'impression que... Enfin, il trouve un réconfort là-dedans, c'est pour se protéger des autres, enfin, en quelque sorte, et se protéger de ses problèmes, surtout. Et finalement, en fait, il s'enferme dedans. Et The Wall, c'est plus qu'un album, en fait.
J'allais te dire, Professeur Rémy, mais oui. The Wall, n'est-il pas aussi le nom de leur film?
Mais exactement, et c'est même plus que ça aussi, c'est...
Blow your mind.
L'explosion mentale.
Ah oui. Ah, t'as vraiment fait blow your mind. Tu as traduit, quoi. L'explosion mentale. J'ai fait te souffler l'esprit.
Donc, en plus du double album, moi, il y a aussi un film qui est sorti en 82, réalisé par Alan Parker, si je me plante pas. Mm-hmm. Et donc,
c'est pas un membre de Pink Floyd, lui aussi. Je sais.
Il me semble pas.
Je l'ai tenté.
Et ça se trouve, oui, et je vais me faire bâcher.
Et ça se trouve, non, et je passe pour un gros con. De toute façon, ce qui est bien, c'est que là, il y a forcément un des deux qui a tort et un des deux qui a raison.
Ça se trouve, il a fait un live avec eux sur trois dates.
En 64. Uniquement à Brest. Un mardi.
Et au scénario pour ce film, on retrouve Roger Waters qui a une place importante sur l'album. Et donc le film, en fait, finalement, bon, j'ai vu des extraits, hein, j'ai pas vu le film en entier non plus, voilà.
J'ai très envie de le voir, à ce qui paraît, c'est assez chouette.
Ouais, alors en fait, ça met en scène, en quelque sorte, les morceaux de l'album, en fait, finalement. C'est un peu... quelque part, ils racontent un peu l'histoire de ce Pink, en fait, et ils le mettent en scène, ils en font un film.
Est-ce que c'est pas un peu une BO inversée? Est-ce que finalement, le film ne serait pas ce que une musique est... Et t'as un film. Ouais, okay.
C'est beau ce que tu dis.
C'est pas du tout clair.
Non, si, si, si. J'ai
en fait, c'est une BF en fait. Une BO, c'est une bande originale, c'est une bande filmée quoi. C'est un petit l'inverse en fait.
C'est un peu ça.
C'est incroyable ce que je dis. Là, j'ai brisé l'internet. Là, je vous dis, là, il y a PopCloud qui est en train de surchauffer avec les commentaires. Mais quel génie!
La communauté est perdue.
Là, on est top 1 des charts. Là, c'est fini. Là, prépare-toi à la gloire là, parce que là, on n'était pas prêt. Là, c'est la gloire tout de suite. Là, j'ai apporté la gloire sur ton podcast. Pardon.
En tout cas, ce film, je l'ai pas vu, juste vu des extraits, mais voilà, c'est en tout cas l'histoire de Pink, si j'ai bien compris, avec dans le rôle principal, la personne qui joue Pink est un musicien, chanteur d'un groupe, j'ai pas retenu qui c'était, mais quelqu'un d'assez connu dans...
Bah, bravo.
Un Irlandais, si je me plante pas. Okay. Je balance vraiment des trucs sans savoir, c'est terrible.
On est vraiment sur le Doremi de l'aléatoire, c'est vraiment peut-être, quoi.
Je suis désolé.
Non, mais t'inquiète, attends. Non. De toute façon, t'es pas censé le faire sur le film, c'est sur la musique.
En tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que... The Wall, c'est plus qu'un album. Déjà, c'est un double album, ce qui est pas si fréquent à l'époque. Je crois que les premiers double albums, ça vient avec Dylan et les Beatles. C'est les années fin 60, c'est cette époque-là. Enfin, Dylan, en fait, c'est 66, son premier double album. Et je crois que c'est un des premiers à faire ça.
Ouais.
C'était pas courant. Et il y a aussi les concerts aussi de The Wall, qui étaient, il paraît, incroyables.
Ah oui, ouf.
En fait, parce qu'ils avaient une idée, des projets en fait pour leur concert qui étaient vraiment au-delà de juste jouer la musique.
Bah ils avaient un univers qui était assez fou quoi.
Ouais.
Qui dépassait juste la musique.
Bah, carrément.
C'est un peu côté transcendantal, enfin de transcender. Alors attention, tous les musicologues me poignardent. Non, le côté peut-être transcendantal, enfin de pas transcendantal, expérimental, d'essayer de nouvelles choses, de dépasser le cadre juste de la musique du concert.
Exactement.
De,
ouais, ouais.
De tout ça, ouais. Bah après, moi c'est, alors c'est très con, mais moi Pink Floyd. Enfin, c'est plutôt qu'il y a un groupe qui me fait penser à Spinfoy dans cette envie-là.
Ouais.
Et c'est peut-être, enfin, c'est con, mais je sais pas pourquoi, Stupéflip me fait un peu penser à ça.
C'est vrai.
Dans le sens où tu sens que ça va beaucoup moins loin, parce qu'ils ont moins, ils ont pas du tout cette ambition-là, je pense, mais t'as ce côté-là où ils créent vraiment un univers, ils essayent de créer un univers à travers leurs chansons.
Ah oui, par rapport à ça.
Alors qu'il reste très musical, mais où je trouve que j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment créer toute une mythologie autour de leur musique que je trouve assez cool.
Carrément.
Et qui, je trouve, se retrouve peut-être un peu dans ce.
Oui, alors oui, du coup, je comprenais pas parce que je pensais que tu parlais du côté par rapport au concert.
Non, parce qu'ils en font très peu des concerts.
Ouais,
aussi,
ils en font très peu, d'accord. Moi, ça me faisait penser par rapport à cette façon qu'ils ont d'appréhender le concert à Rammstein, par exemple.
Qui
adore le spectaculaire et qui fait des trucs incroyables.
Ouais, Rammstein, c'est plus dans le côté du coup spectacle, vraiment.
Oui, voilà.
Pyrotechnie, tout ça.
Mais en fait, pour The Wall, au niveau des concerts, ils en ont fait très peu pour des concerts où ils jouaient tout l'album, parce qu'en fait, c'était ça le but. Ils voulaient jouer tout l'album, en fait. Et il y a eu assez peu de représentations, parce que c'était un coût énorme.
Bah ouais, tu m'étonnes.
Parce qu'en fait, il y avait, pour ce live-là, il y avait un énorme mur, en fait, qui construisait, pour représenter donc,
le
fameux mur. Des écrans géants aussi, même des marionnettes immenses. Ça, c'est super impressionnant.
Bien,
Regardez les images, parce que. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir vu ça dans d'autres concerts, qu'il y a d'autres groupes qui aient organisé des trucs aussi impressionnants. C'est vraiment incroyable. Tu vois, en fait, donc ils sont en train de jouer et une énorme marionnette qui se déplace. Je comprends pas trop comment elle est déplacée, si elle est en l'air ou si elle est accrochée à des câbles. On dirait qu'elle va presque au-dessus du public, c'est assez incroyable. Et Pink Floyd aussi, ils avaient un truc qu'ils aimaient bien faire, c'était se faire balader des énormes cochons gonflables au-dessus du public, je te jure. Et. Ils avaient comme ça un sens du spectacle en fait, ça dépasse la musique.
Ouais,
c'est assez incroyable. Et même Roger Waters se retrouvait à délaisser un peu la partie instrumentale pour jouer en fait Pink sur scène en fait. Enfin, il y a un côté opéra aussi rock qui est assez incroyable. Et moi, en tout cas, ça m'a. Enfin, je suis content d'avoir pu me pencher plus là-dessus parce que ça me donne envie de vraiment plus découvrir Pink Floyd. Et en tout cas, ces concerts devaient être impressionnants.
C'est le genre de musique aussi qui maintenant, moi je connaissais pas du tout l'histoire. Enfin, je savais que ça venait de The Wall et tout ça, mais c'est pas plus histoire que ça. Et c'est vrai que c'est le genre de morceaux qui ont été vachement sortis du tout.
Ouais.
Et je me demande si peut-être qui était vachement sorti du tout. Et je me demande si les Pink Floyd avaient prévu ça ou au contraire. Tu disais, tu vois, justement, que le but c'était de jouer tout l'album et tout. J'ai l'impression qu'ils le voyaient vraiment comme un tout.
Ouais,
tu vois, et que sortir cette musique-là de son contexte, c'est un peu comme sortir une scène d'un film, quoi.
C'est exactement
c'est
ça.
C'est un peu bizarre. Enfin,
c'est comme si on disait acte 3, scène 5.
Et
c'est ce qui est resté quelque
part. En
fait, c'est
finalement presque un monologue, en fait. Classique, quoi. Enfin,
c'est comme Hamlet, on en retient être ou ne pas être.
Ouais.
Là, tu retiens Breaking the Wall, mais autour, il y a toute une œuvre qu'ils avaient pensée en trois phases, quoi. Ils avaient pensé l'album, le live, le film.
D'accord. Et quelle date, du coup, tu disais
Pourquoi ? Pour l'album
Pour Another Breaking the Wall.
Ouais, donc l'album The Wall, c'est 79.
Ouais.
Voilà, le film, c'est 82.
82.
Voilà, donc.
Ouais, c'est vachement plus récent.
Donc, finalement, ça.
Je pensais que c'était début 70, moi.
Je croyais aussi, finalement, j'étais assez peu renseigné sur.
Ouais, moi, donc, j'avoue, je connais une chanson d'eux que j'adore, que je vous conseille d'ailleurs, qui s'appelle Wish You Were Here.
Très connu.
Le plus connu, je pense, avec Another Breaking the Wall.
Et ben justement, qui parle aussi de ce premier. De leur premier. Un de leurs premiers chanteurs, un de leurs premiers un peu leader du groupe.
Enfin, si
je me plante pas, putain, bon.
Allez.
Je vais arrêter de faire des hypothèses parce que je vais me faire bâcher, je sens.
Et je crois que d'ailleurs, le deuxième guitariste, c'était le Père Noël. Pareil, vérifier, attention.
Toute proportion gardée.
Mais cela ne nous regarde pas. Ok, c'est fini.
C'est fini, ouais. En tout cas, je suis ravi d'avoir pu me pencher sur Pink Floyd, c'est un groupe passionnant.
Et bah merci Rémi. Je te mets la main sur la cuisse pour te remercier. tu es très doux d'ailleurs, je veux dire, c'est très agréable.
J'entretiens mon poil.
Et puis j'entretiens mon poil. On n'avait pas besoin de savoir
on
ça. Déjà, on n'avait pas besoin de savoir que t'avais plein de poils sur les cuisses. Je veux dire, voilà, vous avez les secrets. J'allais dire l'envers du décor, mais l'envers du micro, quoi.
Faites-vous des images maintenant.
Non, surtout pas, s'il vous plaît, sauvez-vous. Écoute, merci beaucoup.
On clôture cette rubrique.
Clôturons la rubrique. Et voilà. C'est fait. Pas vraiment de clôture à cette rubrique. Très bien, très bien, très bien. Bah, merci pour la 67e fois. Je vais enchaîner en vous disant que j'ai pas de manga. Oh, ça fait un moment que j'ai pas de manga.
Pas de manga, dis donc.
Ça m'énerve. Mais en fait, j'ai plein de mangas. Alors voilà le problème alors, avec le thème de l'école. Le problème avec le thème de l'école, c'est un peu ça, c'est que alors, en fait, plein de mangas, mais vraiment.
Trop.
80% des shonen se passent dans un lycée, dans un collège, beaucoup au collège, mais aussi dans un lycée, tout ça, parce que le shonen, donc pour ceux qui n'y connaissent rien en manga, ce qui est tout à fait acceptable, hein, shonen, ça veut dire en japonais, ça veut dire jeune garçon, il me semble, beaucoup d'hypothèses. Non mais c'est stylé là, c'est l'idée de jeune garçon et en fait c'est des mangas type action, voilà, il y a plein de genre, il y a le shonen Neketsu, c'est le plus connu, c'est un jeune garçon a un but et pour l'atteindre va se faire des amis et va devenir le, en fait pour devenir le plus fort va s'entourer de gens et va progresser tout ça. Ça c'est le shonen un peu de base, ce qu'on appelle le shonen Neketsu. D'accord. Et en fait du coup donc il y a différents types de mangas et le shonen c'est ce qu'on lit beaucoup beaucoup en France. C'est One Piece, Naruto, Dragon Ball, tout ça, c'est des shonen. Ceux qui n'y connaissent rien, ceux que vous avez déjà, ceux dont vous avez déjà entendu parler, c'est des shonen. Donc c'est des shonen. Okay. En gros, c'est pour les 10-25 ans, quoi. Après, tu peux y aller à 40 ans, t'as le droit, mais... Voilà. Et donc, du coup, pour parler à leur public, c'est souvent des trucs qui se passent au lycée. Je vous avais parlé d'Aishi 21 dans l'épisode sur le sport, ça se passe dans un lycée. Slam Dunk, je vous en ai parlé pour le sport, ça se passe dans un lycée. Pour les super-héros, je vous ai parlé de My Hero Academia, ça se passe dans un lycée.
Dis donc.
Il y a tout qui se passe dans des lycées. Et moi, je voulais juste vous parler d'un autre manga très rapidement, ça s'appelle Yu Yu Hakusho, qui est un manga donc, qui est assez vieux, c'est 90-94, il y a 19 tomes, c'est de Yoshiro Togashi, et qui est, pour les amateurs qui ont reconnu le nom de l'auteur d'Hunter x Hunter, dont j'aimerais vous parler, mais je sais pas dans quelle rubrique, parce que c'est un peu spécial, mais je vous en parlerai un jour, promis. Du coup, Yu Yu Hakusho, en fait, c'est un manga de 19 tomes, et en fait, les 3 premiers tomes se passent vraiment au lycée.
Ouais.
Et c'est un furio, donc les furios, ce qu'on appelle les furios, c'est les kaira un peu pour nous. C'est ceux qui ont des. Parce qu'ils ont des uniformes au Japon, en tout cas à l'époque, ils avaient des uniformes. Je crois que maintenant encore. Hein.
Ouais.
Ils ont des uniformes, et du coup, c'est ceux qui ont les pantalons trop longs, ou les vestes trop longues, ou vice versa, qui se baladent avec des bananes, qui ont les cheveux gominés et tout, et qui se tiennent les jambes écartées en disant Nani. Voilà. Donc, ça, c'est les furios, c'est un peu les Kaira, et là, c'est un furio au grand cœur, c'est une Kaira au grand cœur qui se tape, et qui meurt en fait en sauvant un enfant. Et en fait, le paradis, enfin, les dieux n'étaient pas attendus à ça, ne s'attendaient pas à ce qu'il se sacrifie pour un enfant, parce que c'est censé être un connard.
D'accord.
Et donc, du coup, il a la chance de renaître s'il devient enquêteur du surnaturel. Et en fait, c'est marrant parce que les deux, trois premiers tomes sont vraiment centrés sur lui, son rapport au lycée, à l'autorité, à ce truc-là, un peu d'enquête et tout ça. Et à partir du tome 4-5, c'est je te mets des grands bourrinades dans la tête en mode Dragon Ball où je te balance des rayons laser avec mes doigts. Vraiment, c'est très drôle, il y a vraiment deux mangas dans un seul, quoi.
Mais attends, du coup, le mec est mort et il revient à la vie.
Ouais, en fait, il meurt, il fait des enquêtes et tout ça pour pouvoir... En fait, il doit résoudre des enquêtes pour revivre, il revit, et en étant... Il croit que c'est fini, et en fait, le manga continue parce qu'en gros, il a d'autres missions en tant qu'humain.
Et là, il va se taper.
Et là, à partir de ce moment-là, c'est vraiment, il met des grands kamehameha dans la tête, dans la bouche des méchants, et c'est rigolo, quoi.
Ah oui, ouais.
Mais voilà, c'est très bien, puis ça parle, enfin. Moi, je suis assez. Je trouve ça assez intéressant les mangas qui parlent du lycée et tout ça, parce que nous, ça nous paraît très éloigné, c'est pas du tout la même façon de voir les choses. Enfin, c'est marrant parce que par exemple, t'as des mangas qui sont très très violents, et d'autres qui sont. Enfin, par exemple, les Seinen, ça va être tout de suite très violent de ça, mais dans les Shonen, ce qui est rigolo, c'est que les Furio, les Kaira, qui sont hyper soft. Enfin, tu sais, ils fument une clope sur le toit et c'est genre, mon dieu, mais ils sont fous, quoi, tu vois.
Ah non.
Et t'as d'autres mangas où au contraire. Enfin, ils sont ultra vénères, il se passe rien, quoi. Et voilà, Slam Dunk, par exemple, le manga de basket, t'as un tome où c'est une baston dans un gymnase, quoi. Et les mecs se tapent, vraiment hyper vénères. Tu comprends pas, tu te dis, je regarde un peu voir des mecs qui tirent des lancers francs, pas des mecs qui se mettent des grandes pépites, quoi. Mais voilà, et non, et après, si, il y aurait GTO, dont je pourrais vous parler, là, tous les fans de manga se sont dit, attends, tu vas pas parler de GTO. GTO, c'est un ancien furio qui est devenu prof.
D'accord.
Enfin, qui devient prof et tout ça, bah justement non, en fait, c'est toute l'histoire, quoi. Et en fait, je dois avouer à ma plus grande honte que je n'ai jamais lu GTO, j'ai jamais mis la main dessus. Je ne lis pas de scan, donc j'achète, donc c'est vrai que le temps de finir toutes les séries, j'ai jamais pu lire
GTO.
C'est
un classique un peu GTO comme Dragon
Ball. C'est un gros classique, ouais. Enfin, c'est, non, c'est pas autant, mais oui, que... mais en fait, c'est entre le shonen et le seinen, en fait, ça parle de thème d'adulte.
D'accord.
Mais c'est un truc que tu lis à dos un petit peu, voilà, c'est un peu un truc transgressif.
Oui, j'avais un pote au collège qui lisait ça, voilà. Et c'était trop...
Tu lis ça entre 12 et 15 ans, c'est... et tu te sens trop comme un thug.
C'est exactement ça.
C'est ça. Et donc, du coup, c'est un peu un classique, et moi, je suis un peu passé à côté, donc promis, je vous encore rattraper. Mais GTO, ouais, c'est un gros classique. Et donc du coup, si je peux enchaîner, parce que je parle beaucoup, mais je suis désolé, j'enchaîne, parce que dans le même type de truc du l'ancien raté qui devient prof et qui du coup, enfin un mec qui aimait pas l'école qui devient prof et qui du coup est pas du tout dans le moule de l'école, il y a un film là-dessus que peut-être vous connaissez, mais qui est pas si connu que ça, c'est School of Rock, Rock Academy en français, magnifiquement traduit, ou c'est l'inverse, je sais plus lequel est quoi, et qui du coup avec Jack Black, s'il vous plaît. Je demande 10 secondes de silence pour Jack Black. Il n'est pas du tout mort. Jack Black, donc, qui est un acteur que j'adore. Film de 2004 de Richard Linklater. Ouais. Et donc, du coup, c'est un mec au chômage qui reçoit un peu, je crois par erreur, une lettre pour devenir prof. Et il devient prof, et sauf qu'en fait, il ne sait pas être prof. C'est en primaire. Et du coup, il décide de monter un groupe de rock avec les élèves au lieu de leur donner des cours. Et au début, ça se passe mal, c'est un naze. Et puis bah, finalement, la beauté du rock va leur apprendre les valeurs de la vie. C'est beau ce que je dis, hop, encore deux places de plus dans les classements PodCloud, là je vous dis, on s'arrête pas là, là on s'arrête pas là, là on vise la première place à la fin tout du podcast, on est en haut quoi. Non voilà, donc du coup, bah, super bon film, très bonne musique, Jack Black qui fait du Jack Black, c'est comme Jim Carrey mais en gros et en talentueux, et je plaisante, pas du tout, je rigole, j'aime beaucoup Jim Carrey, quand il fait pas des blagues homophobes, comme dans...
Ace Ventura.
Merci,
mais
on vous en parlera.
Ace Ventura, c'était une autre époque. C'est...
On pourrait être homophobe et où tout le monde rigole en disant oh, ça va, c'est à l'époque. Je n'ai rien à dire. Non, du coup, Rock Academy, franchement, un classique, mais découvrez-le, redécouvrez-le, parce que c'est franchement très sympa. Voilà, grand moment de cinéma et de musique.
Ah, bah oui, ouais. Moi, voir Jack Black faire des concerts, déjà, ça me suffit.
Avec son groupe Tenacious
D. D'ailleurs, il y a des films Tenacious D, non, si je me plante pas.
Ouais, je crois qu'il y a eu un film. Alors, en tout cas, ils ont fait des clips hyper filmés. Ouais, je crois qu'ils ont fait un film avec. Et moi, je croyais qu'ils étaient frères, les deux. En fait, je crois pas du tout.
Ah, ok.
J'étais persuadé qu'ils étaient frères. Je sais pas d'où ça vient. Je crois qu'en fait, dans l'histoire. Non, dans l'histoire, ils sont pas frères. Mais si, t'as raison, il y a un film Tenacious D. Voilà, moi, je me contredis, bon. Je dis tout et rien à la fois. C'est incroyable. Encore un podcast de la précision. Je t'en prie, Rémi. Claque-moi une roco dans la tête.
Eh ben, sans transition, le petit Nicolas.
Il me l'a volé.
De Goscinny et Sempé. Bon, je pense que...
On en a parlé dans le premier podcast, il me semble.
C'est bien possible.
Je sais plus. Il me semble qu'on en a parlé très rapidement.
J'en ai pas le souvenir, mais...
Alors, il faut vous avouer, on a fait des épisodes pilotes que vous pourrez peut-être entendre un jour. Si un jour on n'arrive pas à enregistrer des trucs, on vous foutra des épisodes pilotes. Et je sais pas si on en a parlé du coup dans le pilote ou dans l'original, je sais plus. Mais on en a parlé pour les copains. Moi j'en ai parlé pour les copains.
Ok.
Mais je sais plus si. Dites-nous. On attend la réponse.
On attend, hein.
Ah bah super.
Genre maintenant.
Super, il n'y a pas du tout de retour avec cette communauté, génial. Non, du coup, vas-y.
Et ben.
Plouille-moi.
Alors, pourquoi le petit Nicolas? Pourquoi? Ben, parce que ça se passe à l'école, mince.
Allez, bonne soirée. C'était Blabla Couch. Karaoké tout de suite.
Figurez-vous que j'ai appris qu'à l'époque, c'était des BD, des espèces de stripes, de BD à la française. Parce que c'était des strips qui sortaient à partir de 56, donc c'est quand même assez vieux, qui passaient dans divers BD, ces journaux français et belges.
Oui, c'est genre dans Spirou Magazine, dans ce genre de truc, non?
Je crois, ouais. Il me semble.
Ou c'était vraiment des journaux genre quotidiens?
Il y avait aussi des journaux. En fait, je crois qu'il y a eu les deux.
Ouais, ok.
Mais... et donc après,
juste pour dire, Sempé au dessin et Goscinny
à l'histoire, à l'écriture, enfin au texte. Quoi.
Non, parce que Goscinny, Goscinny, Uderzo, Astérix, Oumpapa. Oumpapa, allez me voir ça, c'est génial.
Oumpapa.
La première BD de Goscinny et Uderzo. Mais nous ne sommes pas là-dessus. Je vous donne des petits recos comme ça.
C'était un petit bonus.
Je vous donne des recos hors thème, quoi. Moi, c'est comme ça, je fais un peu du hors-piste.
Du coup, le petit Nicolas, bon, moi, c'est presque plus lié, j'ai l'impression, à quand j'étais gamin, à mon enfance, finalement, que à l'école, enfin, comment dire. Je crois que je devais lire ça quand j'étais au collège, peut-être, à peu près. Mais les histoires inédites du petit Nicolas, tu sais, les deux bouquins qu'il y a eu, le blanc et le rouge, là.
C'est les rééditions, quoi, non?
Ouais, je pense que c'est ça.
Bah, oui, non, en vrai, c'est inédit, alors c'est peut-être...
Ils appellent ça comme ça, mais alors je sais pas pourquoi. Ouais. Enfin, en tout cas, les histoires qui s'écrivent, ça fait comme des nouvelles avec des dessins à des moments. J'ai lu ça assez tard, en fait, je crois, parce que j'ai lu ça au collège, il me semble, mais parce que j'ai eu du mal à me lancer dans la lecture à cette époque-là.
Moi, encore maintenant, je te rassure, il n'y a pas de honte à avoir.
Et Bah voilà, là, c'est la cour de récré,
non,
quoi.
Mais c'est, bah, c'est marrant, mais c'est ce qu'on disait, c'est l'école, mais du coup, c'est... Enfin, moi, je me rappelle pas tellement du... Si je me rappelle du rapport à l'école avec, les... avec le pion,
oui.
Qui était un peu le méchant de l'histoire, quoi, mais... c'est vachement les copains, c'est des personnages très... pas stéréotypés, mais qui ont vraiment des identités très propres. Moi, je me rappelle du petit gros, du...
C'était pas monsieur Dubouillon, le pion?
Ouais, si, c'est peut-être un truc comme ça. Mais du coup, t'as celui qui mange, t'as celui qui fait du sport, t'as celui qui machin.
Oui, exact.
C'est des rôles... Enfin, voilà, c'est des trucs très, très carrés, très clairs, et... Et alors moi, souvenir sur le petit Nicolas, si je peux m'épancher un petit peu, c'est ce qui m'a amené au théâtre, entre autres.
Non.
Et oui, car je suis comédien. Et non, mais c'est mon... Quand j'étais en primaire, on avait entre midi et deux, tu sais, des activités, quand on mangeait à la cantine. Et il y avait un monsieur que je salue, Yves Faure, qui a été mon professeur de théâtre pendant 10 ans.
Ouais.
Et qui avant, et qui devenait mon professeur de théâtre quand j'étais en CE1, venait nous lire des histoires entre midi et deux, si on voulait. Mmh. Et il nous lisait le livre de la jungle, et il nous lisait le petit Nicolas. Et c'était un comédien metteur en scène, ça, donc il avait une super voix, il lisait ça trop bien. Je me suis dit, mais j'ai trop envie de faire ça, c'est trop bien ce qu'il fait. Et après, du coup, j'ai vu théâtre dans son école, et voilà. Donc c'est quelqu'un à qui je fais un énorme big up, qui n'écoutera jamais ce podcast. Mais voilà.
C'est une bouteille à la mer.
C'est voilà.
Yves, si tu nous écoutes, je parle pour Antonin.
Portez ce podcast jusqu'à ses oreilles.
Faites quelque chose.
Faites quelque chose. Mais voilà, non, mais du coup, petit Nicolas, moi, du coup, c'est plein de souvenirs comme ça, j'en ai jamais trop lu de mon côté.
Ouais.
Mais c'est souvent des histoires aussi qu'on m'a lues ou sur lesquelles je suis tombé comme ça, que j'ai grappillé un petit peu, que j'ai grignoté comme des petites céréales de la vie, quoi.
Moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans le petit Nicolas, c'est ce côté point de vue d'un enfant. Point de vue d'un enfant, mais qui se heurte pas juste à la cour de récré et les potes. C'est aussi se retrouver face aux adultes. Enfin, il y a plein de moments où il est face à des problèmes d'adultes aussi avec... que ce soit avec ses parents ou avec les professeurs, il me semble qu'il y a les professeurs,
en classe, mais le maître, je crois, ou la maîtresse, je sais plus.
Et il y a un côté très, ça me fait penser à, on en parlait l'autre fois, à la BD que tu adores, Calvin et Hobbes.
Bah alors oui.
On est d'accord qu'on voit jamais les têtes des adultes. Si. Non, c'est dans Charlie Brown.
Dans Toy Story, on voit pas les têtes des adultes.
Et dans Charlie Brown aussi,
non? Je sais pas.
Il me semble que dans les comics de Charlie Brown, on voit jamais les têtes des adultes. Si je me putain. Ça, je ne me trompe pas encore.
Hey. Voilà. Mais non, mais moi, comme tu dis, puis moi, j'aime bien dans le petit Nicolas, le côté aussi très, très doux avec l'enfant. C'est pas du tout. Enfin, c'est une vision d'adulte, mais très doux. C'est très, très intelligente et intelligible par rapport à un enfant. Et en même temps, c'est pas non plus des enfants qui ont des pensées d'adultes. Enfin, c'est assez bien équilibré par rapport à ça. Mais bon, franchement, c'est un classique. Si vous avez jamais lu le petit Nicolas, que vous avez juste entendu parler. Ça se lit bien, franchement.
Bien sûr.
Voilà, vous passerez pas, je pense, 4 heures captivés à vous coucher à 6 heures du mat pour finir le bouquin, mais ça se grappille par-ci par-là le matin avec un café, une petite biscotte.
Au moins, s'il y a des parents qui nous écoutent, donnez ça à vos enfants parce que.
Ouais, ou leur lisez-leur, ça se lit très bien.
Parce que moi, je sais que j'avais beaucoup de mal avec la lecture, surtout au collège, je lisais quasiment que des BD, mais même Harry Potter, pour vous dire, j'ai commencé et ça m'a saoulé.
Bon, en même temps, c'est hyper mal écrit Harry Potter.
Ouais, mais je sais pas, tous les gens que...
ils ont des goûts de merde.
Moi,
coup de gueule d'Antonin en direct.
J'avais cru comprendre que c'était vachement catchy Harry Potter, que ça plaisait vachement aux gamins. Bon, ça a pas du tout marché. Alors que le petit Nicolas...
Oui, mais en plus, il y a des dessins, le style graphique est trop bien.
Les dessins, je pense que ça participe beaucoup aussi.
J'ai pas vu le film, et franchement, c'est peut-être vraiment des a priori de merde, mais j'ai pas du tout envie de le voir.
Moi non plus.
Avec Calmerad et tout ça, moi j'avoue que c'est le genre de truc. C'est comme t'as eu les rééditions de La Guerre des Boutons, moi ça m'a pas du tout tenté quoi.
Mais alors qu'il y en a combien des rééditions de La Guerre des Boutons? Parce que j'ai un
peu. Il y en a eu deux en même temps. Les mecs sont des cons quoi.
C'est vrai?
Ouais, mais c'est comme.
Genre la même année ils ont sorti.
Mais c'est comme ils ont sorti deux films sur Yves Saint Laurent en même temps presque.
Ah oui, je me souviens.
Et bah La Guerre des Boutons c'était pareil, genre la même année à deux mois d'écart quoi.
Ah non. Ah ouais.
Et non mais ouais, bah pareil La Guerre des Boutons aussi. Mais après moi je voulais pas conseiller parce que je m'en rappelle plus assez, mais. Je sais plus si ça parle vraiment de l'école, mais La Guerre des Boutons, c'est génialissime. Si ça, vous connaissez pas l'original avec, avec Petit Gibus, c'est ça? Le gamin?
Enfin, je saurais pas.
Ça, c'est génial. Moi, je me rappelle avec le même petit, avec le même acteur, le gamin, Bébé à l'omnibus aussi. Un film sur les gamins aussi, c'est génial. Mais ça, vous en parlerez sur un autre podcast qui aura un autre thème. mais ouais, en tout cas, allez-y, Petit Nicolas, top. Peut-être que l'on traîne un peu, on va peut-être accélérer et passer tout de suite à la rubrique de nos coachs.
Ah.
Il est peut-être temps de passer à des coups de
sifflet. On va peut-être passer au vestiaire. On va aller
on va passer au vestiaire. Allez, c'est parti.
Allez.
Il est maintenant l'heure du coaching.
Et c'est trop cool.
Tout de suite, c'est Blabla Coach.
Nos deux experts sont là pour nous.
Super.
En effet, j'ai quelques questions.
Quelle douceur.
Alors ouvre grand les oreilles parce qu'on a des réponses.
On en a de la chance.
Bonjour, coach Antonet.
Écoute, bonjour, coach Rémi, comment va?
Alors, on va plutôt bien, j'ai travaillé le biceps, le triceps, le quadriceps, aujourd'hui, je me sens en forme. Je suis désolé, je suis parti, je suis verdi.
Petit son de l'impro. Écoute, il y a le bibi qui pompe, quoi. Ben voilà, quoi. Il y a le pec qui se développe lentement, mais sûrement.
Non, écoute, moi, je voulais vous proposer, pour l'école, qu'on ne vous donne pas de conseils, car chacun vit son éducation comme il le souhaite.
Ouais.
Et comme surtout le souhaitent les adultes. Et vu qu'on imagine qu'on parle pas trop à des lycéens ou à des collégiens, bah, pas trop de conseils. Enfin, je pense que les gens qui nous écoutent ont déjà fini leurs études.
C'est possible, mais...
Si jamais vous êtes encore dans les études, moi en tant que coach, le seul truc que je vous conseillerais, si vous êtes encore dans les études, c'est arrêter d'être des connards. Non, je rigole. Non, mais tu vois, moi, je me confie un peu. J'ai été pion.
Ouais.
Et je me rends compte que... Alors, là, je me trahis en tant que... Comme moi, que j'étais ado.
Est-ce que tu ouvres ton cœur?
J'ouvre mon cœur, mais je me suis rendu compte d'à quel point j'étais un petit connard au lycée et au collège. Parce que tous les élèves qui faisaient exactement les mêmes choses que moi, ça m'a gonflé. Et j'aurais pas pu me supporter. Donc, pensez juste, si vous êtes jeune,
ça, c'est
que vous allez grandir et que... Même si... Moi, je suis encore très fier de l'ado que j'ai été, tu vois. Je me juge pas pour autant en me disant que j'étais un... Quand j'étais un connard, c'est pour rigoler. J'étais... Voilà. J'étais quelqu'un d'humain et de... Et de normal, enfin de gentil, j'imagine. Mais voilà, enfin voilà, dites-vous juste que les adultes qui vous entourent restent des êtres humains. Et donc moi, je voudrais juste vous dire d'être gentil avec les profs, parce que des fois, c'est pas facile.
Et même avec tout le personnel qui travaille dans l'école.
Clairement.
Enfin, ou le collège.
Voilà, donc si vous êtes ado, pensez à ça. Et si vous êtes adulte, bah pensez aussi que vos élèves, ils ont des... Que vos élèves, vos enfants, ils ont aussi un petit cœur qui bat. Et... On donne des conseils parentaux, nous. Hein, attends, je vais te dire.
Là, c'est des conseils de vie, carrément.
Les deux chômeurs donnent des conseils de vie. C'est... Si vous êtes parent, vous avez pensé au bien-être de votre gosse.
Moralement, vous pouvez vous regarder dans un miroir.
Ouais. Moi, je pense pas, moi. Je pense pas. Tu m'entends, maman? Tu m'entends, maman? Non, pas du tout. Non, moi, je pensais, petit blabla, coach, ouais. Peut-être qu'ils se confient. Peut-être que les coachs vont se confier.
Les coachs. Bah, les masques, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire aujourd'hui, bah les masques.
J'ai envie de dire, bah les masques. Eh bah, dis-le, quand tu rêves, dis-le, n'aie pas peur des constructions sociales qui t'empêchent de dire c'est bon. Bah les masques, et je vais te demander tout de suite, quel genre d'élève t'étais?
Bah, c'est drôle parce que je.
Attends, déjà, est-ce que toute ta scolarité t'as été le même élève? Est-ce que t'as suivi un espèce de cadre ou est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu une rupture, quoi? Est-ce que t'es passé, tu vois, t'étais geek et puis t'es devenu blouson vert? T'es devenu un petit peu, voilà, la terreur.
Rébellion.
Est-ce que t'étais la terreur au début, puis tu t'es assagi? Est-ce que t'étais le clown de la classe? Parce qu'il y a quand même des cadres très, très clairs à l'école. T'as le clown, t'as le... Comment on dit? Le ténébreux ou la ténébreuse.
Ouais.
T'as celui qui fout la merde.
T'as le costaud.
Ouais, c'est ça. T'as la caïra. T'as toujours plein de trucs. T'as le populaire. Enfin, t'as les populaires. Ah, t'as des groupes aussi de gens, quoi.
Ouais.
Les populaires, les sportifs, les machins, les trucs.
Bah, moi, je... C'est où, toi? Moi, je crois que je me considérais comme un timide, je crois. Mais
quelle
du
surprise
coup...
Hey, t'as tête dans tes lots, là. C'était un timide, baisse les yeux.
Mais le pire, en fait, ce qui est pire, en fait, c'est que tout le monde me croyait que j'étais un intello, alors que j'étais un des pires élèves de la classe.
Alors, moi, je te le dis, quand je t'ai rencontré, alors, faut savoir que Rémi a des lunettes rondes. Déjà, ça, déjà, t'es direct
un peu. C'est
moi, c'est con, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, la tête qui arrive, quoi. Et en fait, il est con comme un arbre. Hein. On l'a vu avec ses recommandations, le mec vérifie
mais
rien.
Mais c'est seulement du pareil.
Il ne sait rien.
C'est de l'apparence. Moi, je gruge. Le bac, vous voyez que je l'ai eu comment?
J'ai poignardé mes profs pour l'avoir, mon bac. Vous croyez quoi? Je les ai menacés
physiquement. C'est tout physique que ça se passe.
S'il vous plaît, franchement, regardez-moi. Je mérite une bonne note, non? À l'oral.
Non, mais je crois que j'étais... Après, au niveau du collège, je crois que j'ai presque évolué vers presque l'espèce de geekos weirdos, un peu.
Geekos weirdos, quoi.
Ça se dit, non?
T'étais en Grèce ou... Geekos. Enchanté, geekos.
Exact.
Le nerd, quoi.
Le nerd, un peu. Au collège. Au collège, en fait, avec
ça
mes
joue
potes...
Ça joue à Beyblade, ça...
Ça joue aux jeux vidéo et ça reste dans un entre-soi et on a des délires caca-proute pendant tout le collège, quoi.
Ah ouais.
Ouais. Et à tel point que tu sais, les potes vers la quatrième qui continuent à traîner avec toi mais qui commencent à évoluer vers d'autres trucs, commencent à te lâcher un peu en disant « Ah mais les gars, dans la file d'attente pour le self, vous parlez encore de merde et tout, c'est chaud, je me sens pas à l'aise. »
Alors mon jugement est silencieux et total. Mon jugement est silencieux mais sans appel, je tiens à te le dire.
Là, je crois que j'ai pendant longtemps été un peu une espèce de...
Un peu le geek.
Un peu le geek, ouais. Et...
Mais je fais pas trop de vagues.
Mais je l'ai très bien vécu. Genre, ouais, voilà, au collège, moi, je me... En fait, je voyais pas du tout ça, je me voyais juste comme un mec qui avait plein de potes et qui déconnait tout le temps, mais ouais, genre dans la cour de récré.
C'est un pur moment, quoi.
Ouais, et même en cours, je me souviens que je passais mon temps à dessiner sur les cahiers et tout. Les cahiers de... Tu sais, les cahiers
Attends, pour l'instant...
Ok, ok.
On dira après ton rapport à l'école. Pour l'instant, c'est quel genre d'élève étais-tu?
Voilà.
Alors, en classe et en dehors. Donc, en dehors, c'était plutôt, voilà... Un groupe de potes, on s'amuse et tout.
Ouais,
ça.
Et toujours la même
En classe, c'était plutôt quoi?
Bah,
tu disais rien, tu te faisais pas repérer.
Ouais, voilà. Enfin, ça dépendait des profs en fait. Si les profs me laissaient vraiment de la marge, je faisais un peu n'importe quoi.
Mais je veux dire, toi, tu te faisais reprendre, t'avais les mots dans le carnet un peu.
J'avais des mots dans le carnet. Mais c'était rare, c'était avec juste une ou deux profs. Ouais. Une en particulier, mais genre qui remplissait mon carnet. Parce qu'elle me.
Tu l'avais bien mérité. Non, je pense qu'elle, au contraire, comprenait qui tu étais.
Non, parce que c'était.
Comprenait l'humain déplorable que tu devenais. Elle a voulu t'aider. Tu l'as pas vu ça à l'époque, mais elle a voulu t'aider.
C'était la prof d'anglais, et tu sais qu'en anglais, on a un cahier d'exercice qu'on donne à chaque année, tu sais, le New Life là.
Ah ouais.
Et il y avait des dessins dessus, et du coup, moi je taguais les dessins.
Genre, mettais des dents noires et des moustaches.
Ouais, voilà, exactement. Oh. Des lunettes, des moustaches sur les personnages et tout. Moi j'adorais ça. Je passais mon temps à dessiner en cours, et du coup, ben, elle me défonçait pour ça. Mais dans les autres cours, du coup, j'étais vraiment un taiseux.
Oui, ouais, t'étais discret. Enfin, et pareil au lycée ?
Au lycée, c'est différent parce que j'ai l'impression. Enfin, le lycée, je l'ai moins bien vécu que le collège, quoi.
Ah ouais ?
Parce que j'avais beaucoup moins de potes.
J'ai très peu de souvenirs du. Bah, parce que, on peut le dire. Tu as redoublé, Rémi.
J'ai redoublé la quatrième.
Merde, pardon. Non, mais il n'y a pas de honte.
J'ai redoublé la quatrième. Et,
la quatrième.
Du coup, bah, après, je me suis retrouvé un peu avec les petits frères de mes potes.
Ah là 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 là.
Ouais, ça, c'est dur, ça. C'est marrant, mais.
Mais bof.
Mais bof.
Ok, et du coup, lycée, bah, pareil, plutôt dans ton coin. Enfin, avec des gens, mais.
Ouais, bah.
Discret.
Je pense que c'est le théâtre qui m'a permis de me faire une bande de potes au lycée. C'est vraiment ça qui m'a. Vu que je faisais les ateliers de théâtre du lycée, ben c'est là que je rencontrais des potes. Il y en a qui se font les potes au sport par exemple. Ben, moi c'était le théâtre,
oui,
c'était
mon
truc et c'était ce qui me permettait de
sociabiliser.
Et même de survivre au cours, je crois, parce que je me galérais sur au lycée.
Et du coup ça a ouvert une vocation qui t'a permis de devenir comédien aujourd'hui. On l'applaudit, messieurs dames. On applaudit Rémi. Merci beaucoup d'être venu à C'est mon choix.
Merci, ben écoutez.
J'ai une profession étrange et je vous emmerde.
Maintenant, je voudrais appeler ma mère que j'ai pas vue depuis 10 ans. Maman, si tu m'écoutes.
Double émission.
Destin brisé.
Un destin de vie.
Alors, okay. Maintenant, je suis retourné la question vers toi, Antonin.
Alors, moi, j'ai eu deux phases. J'ai toujours été plutôt celui qui rigole et qui bavarde beaucoup, beaucoup. Mais jusqu'en 5e, j'ai été le bon élève. Genre vraiment, j'étais dans les premiers de la classe, j'ai toujours eu des facilités.
Ouais.
Et après 4e, 3e et tout le lycée, j'étais celui qui en foutait pas une, mais vu qu'il y avait des capacités passées, et genre dans toutes les matières, j'avais peu mieux faire. Bavard trop, peu mieux faire. Toute ma scolarité, j'ai eu ça, et surtout à partir de la 4e, moi j'ai bien aimé le lycée, mais après moi j'ai tout un truc par rapport aux études où j'ai une nostalgie, mais j'ai pas de... Tu vois, je me dis pas, j'ai envie d'y retourner. Tu vois, il y a des gens vraiment qui...
Ouais.
C'est une pure époque, quoi. Moi j'ai kiffé. Ouais. Mais je me rends compte que les gens que j'ai gardés du lycée, t'en as 2-3 vraiment auxquels je tiens encore, mais la plupart, je les vois plus du tout. Vraiment, mais je veux dire, je sais même plus qui ils sont, quoi. Enfin, et si vous voulez me recontacter, allez-y, hein, je suis quelqu'un de sympa.
Vous avez le mail du podcast.
N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer des lettres d'amour, mais non, mais voilà, j'ai perdu presque tous mes potes du lycée et du collège. Mais tu vois, y a pas de regret. Moi, j'ai bien vécu ça. Après, moi, j'ai toujours vécu le truc en me disant, je sais pas, je vis à fond, quoi. non mais je veux dire, j'ai pas du tout de regrets, j'ai pas du tout de trucs où je me dis ah j'aurais dû faire comme si, je me rends juste compte que par contre le côté j'ai jamais rien branlé et c'est toujours passé, en plus parfois avec des bonnes notes j'avoue, c'est que maintenant je me rends, non mais en vrai c'est bête mais ça aussi je le dis s'il y a des plus jeunes qui nous écoutent, moi on me l'a toujours dit ouais mais tu verras à un moment ça suffira pas et je pense que c'est pas le bon argument de dire ça suffira pas, c'est juste de dire que il y a des moments où vous allez devoir bosser parce que voilà dans la vie tu dois avoir un travail, enfin tu dois bosser, que tu dois en faire beaucoup ou pas c'est pas la question, c'est que tu vas devoir bosser et que si tu t'habitues pas au lycée dès le lycée à bosser, ça va te faire très bizarre quand tu vas devoir bouffer et que tu vas devoir bosser et que des gens vont avoir des exigences envers toi. Moi je sais que c'est un truc où je me suis pris un peu une claque en arrivant dans le monde du travail. Alors j'ai pas fait la fac parce que c'est un truc qui m'intéressait pas, mais par exemple le conservatoire de théâtre que j'ai fait, moi c'est un truc qui m'a fait bizarre, je me suis dit merde, je vais devoir m'y mettre, quoi. Pas parce que le talent ne suffit plus, parce que juste là, il n'est même pas question de talent. Il y a des objectifs à remplir, quoi.
C'est ça, ouais.
Et que tu es obligé de travailler, de faire des trucs.
Et presque, tu as l'impression que tu étais au courant de tes objectifs avant.
C'est ça.
Mais tu pouvais pas en être vraiment conscient.
Oui, puis je trouve que l'école, c'est quand même un cadre où, vu que ça se résume à des notes, tant que t'as les bonnes notes, c'est bon. Alors que dans la vie active, c'est pas une question de notation ni rien, c'est une question c'est tout con, tu vois, j'ai été pion, tu dois remplir telle mission, faut que tu fasses telle chose. Et si tu t'habitues pas, mais pareil, moi j'étais tout le temps en retard. Mais vraiment, j'étais en retard, je pense, j'étais à l'heure, je pense, une fois par semaine. J'étais tellement en retard au lycée, j'habitais à 2 minutes à pied du lycée, j'étais jamais à l'heure, j'étais tellement en retard au lycée que mes profs ne me notaient plus absent. Le matin, ils me notaient plus absent, ils savaient que j'allais arriver. Des profs qui étaient super durs, qui détestaient les retards, ils ont fini par accepter. Ils se sont dit, c'est pas possible, quoi. Et du coup, en fin d'année, j'avais 2 retards sur mon bulletin, alors que j'ai dû arriver à l'heure 10 fois, quoi. Mais ça, tu vois, par exemple, moi, je me suis toujours dit, oh, bah, tant que ça passe et tout ça, mais maintenant, je me rends compte que quand t'as un taf et que ça se passe pas comme ça, et ben voilà, moi, je vous dis juste, habituez-vous à ce genre de choses et prenez-en conscience tôt, parce que ça va vous faire... Bon, après, là, si vous êtes jeune et que vous m'écoutez, vous allez dire, bah non, moi, je vais m'en sortir différemment, et c'est normal. Mais voilà, moi je me suis toujours dit que ça allait passer. Maintenant, par exemple, les retards, je sais que c'est un truc avec lequel je me galère. Parce que j'ai pas pris le réflexe quand j'étais plus jeune. Et c'est un truc qui maintenant moi, peut me porter un peu défaut. Quoi. Me porter défaut, mais c'est pas le bon terme. Voilà, on n'a pas les termes.
Exactement.
Yes. Et donc, rien branlé, ça passait. Et ça passait plutôt bien, donc ça allait.
D'accord, bah moi c'était exactement l'inverse parce que je me perds. Enfin,
c'était. Tu bossais, ça passait pas.
Ouais, il y a ça. Ah oui, non, mais clairement, en fait, je pensais pas à ça, je pensais à... Enfin,
oui,
pour moi, dans ma tête, c'était impossible de pas aller à l'école.
Enfin, voilà, moi, c'est ce que je disais, parce qu'on vous en parlera après, on aurait la folle journée de Ferris Bueller, où il a 9 absences dans le semestre, c'est un drame.
On vient de le voir, ouais.
Moi, j'avoue qu'il y a des années où j'avais 30 demi-journées d'absence, genre 15 jours d'absence, et c'était serein, quoi. Et je me rappelle, j'étais délégué de classe, et une fois, il y a une prof qui m'a dit... Mais Antonin, tu vas bien ou pas? Il s'était inquiété, je m'en voulais trop. Il était en mode, oui, bah, ça va mieux là et tout. Je m'en voulais trop parce que j'étais en mode, les pauvres, tu vois, ils s'inquiètent pour moi, ils sont humains. Et en vrai, j'étais juste un connard qui venait pas en cours, quoi. Après, j'ai jamais séché de ma vie. Mes parents étaient toujours au courant quand je n'allais pas en cours. Ils ont toujours su. J'ai été pas mal malade. J'avais une santé fragile. Autre question, du coup, en cours, vraiment, on en a un peu parlé, mais du coup, en classe. Enfin, moi, du coup, quel genre d'élève j'étais? Après, moi, j'avais plein de bandes de potes, surtout au lycée. Moi, j'avais des bandes de potes un peu très différentes de partout.
Est-ce que t'étais un mec populaire, vraiment?
Alors, populaire, non. Mais pas mal de gens me connaissaient. Je me présentais comme le connard qui crie. Parce que moi, je suis très expansif et j'ai jamais eu peur de me faire repérer ni rien. Et j'étais dans un lycée, enfin, je veux dire, je me suis jamais fait emmerder. J'ai jamais eu peur de de gueuler, de me faire remarquer. Je m'en foutais. Ouais. Et pas mal de gens me connaissaient de vue. Parce que je faisais du bruit et tout ça. Mais par contre, j'étais pas du tout dans le gang des populaires qui vont en boîte, qui boivent. Enfin,
ah oui.
Je buvais, mais de mon
je
côté.
Je vois, ouais. Ceux qui veulent devenir adultes avant tout le monde.
Oui, voilà ça. Ceux qui sont hyper cool et tout, qui ont des motos et tout. Non, pas du tout. Mais j'avais des groupes un peu de partout, des groupes un peu différents. J'avais les potes du théâtre, j'avais 2-3 bandes de potes différentes.
Ouais.
Et voilà, je faisais ma vie là-dedans. J'avais des potes très proches. Enfin, voilà, moi, ça, j'aimais bien le lycée, mais encore une fois, quand j'y repense, tu vois, c'est pas les larmes aux yeux, quoi. Je me dis, ah, c'était cool, et puis je passe à autre chose, quoi.
Bah, moi, j'ai beaucoup bien mieux préféré.
Voilà, j'ai les cours de français, peut-être.
Plus mieux préféré le. Voilà. le collège que le lycée.
Ouais, moi, le collège, j'ai très peu de souvenirs. J'avoue que ça n'a pas tant marqué que ça.
Ouais.
Mais du coup, en cours, du coup, t'étais comment?
Vraiment discret.
Tu vois, j'étais le clown qui bavardait, qui faisait le con. Mais toujours dans le respect du prof.
Mais moi, là où j'aurais voulu avoir ton talent, c'est que moi, les notes, ça suivait pas, quoi. En fait, le problème que j'avais, c'était de la concentration, je crois.
En fait, moi j'ai toujours fait plusieurs choses en même temps. J'arrivais à parler, à écouter en même temps. Et en fait, mais par exemple, là on a retrouvé. J'étais chez moi et j'ai retrouvé des carnets de révision, des cahiers de révision du bac que ma mère a récupéré.
Ouais.
Et dans ce carnet, il y avait. Elle a arraché les pages pour garder les cahiers parce qu'il restait plein de feuilles libres.
Ouais.
Elle a arraché 2 pages, quoi. Mon cahier de révision de philo, qui est la seule matière que j'ai révisé, j'avais noté 2 pages dedans, quoi. Et genre vraiment je me suis rendu compte pareil que réviser, répéter tout ça, à part pour le test, je le faisais jamais, quoi. J'ai dû réviser 2 contrôles en 6 ans d'école, quoi.
Oh, purée.
Et parce que c'était un truc que je fonctionnais pas comme ça. Okay. J'avais un fonctionnement un peu différent, mais ça passait parce que j'ai toujours eu la tchatch, j'étais dans un milieu, dans une famille de gens cultivés où on parlait beaucoup de choses, donc du coup je pense qu'aussi moi je sais qu'au bac je pense que c'est aussi un truc où je pense qu'au niveau de la leçon j'étais zéro, mais par contre vu que je donnais mon avis, je parlais tout ça, et je suis tombé sur des correcteurs qui aimaient ça, et j'aurais pu me taper
des vieilles notes parce que si j'étais tombé sur des gens qui restent la leçon.
Ouais, bien sûr.
Il
ouais.
y a pas de recette pour réussir votre lycée ou votre collège ou quoi que ce soit. Essayez d'être heureux et soyez sympa avec les autres.
Ouais.
Non, mais je sais plus où est-ce que j'ai entendu de trucs sur le harcèlement et tout ça. Bah si, dans le cadre de l'enseignement du théâtre et c'est vrai que moi l'enseignement du théâtre m'a vachement appris à respecter l'autre et à être en connivence avec l'autre, en empathie et tout ça, et ça c'est un truc aussi qui est important à développer et à faire développer aux enfants et tout ça. Je pense, encore une fois, je donne des grandes leçons alors que je ne suis personne, hein. C'est pas... Non mais je pense que voilà, c'est un truc aussi d'essayer d'être respectueux de soi, d'essayer de mieux se connaître et aussi d'aller à la rencontre de l'autre quoi, en tant qu'humain et en tant que personne. Tu vois, moi c'est un truc que je disais toujours et qui rendait fou mes potes et alors, je me dis putain mais quel connard je devais être, mais je disais toujours quand j'avais des potes qui disaient ah cette prof c'est une connasse ou quelque chose, je disais non, c'est peut-être une mauvaise prof mais c'est peut-être une bonne personne pour ça. J'étais chiant avec ça.
Le mec qui est déjà au-dessus de tout ça quoi.
J'étais un gros connard mais je m'en rendais pas compte, mais non mais voilà, enfin c'est le genre de truc, faites attention à tout ça. Mais c'est fini. On a fini de parler de nous.
J'espère
que vous étiez passionné. Vrai,
on s'est penché sur les coachs sont ouverts leur.
Non mais c'est vrai. Moi j'aimerais, tu vois, que là vous nous envoyez un petit peu aussi vous qui vous étiez à l'école, parce que moi ça me ferait plaisir de plus connaître aussi notre auditoire qui se compose que d'amis à nous qu'on connaît déjà.
Ouais,
très bien.
Comment vous chers amis, comment avez-vous vécu votre...
Alors si on n'était pas au lycée ou au collège avec vous, envoyez-nous des messages. Non mais c'est vrai, moi c'est, tu vois, c'est le genre de truc où je me dis, c'est aussi ça l'intérêt du podcast, c'est aussi, je pense qu'on n'a pas une communauté de 12 millions de personnes, je pense que ça reste à taille humaine, et du coup, si vous ne nous connaissez pas ou vous ne connaissez pas de cette époque-là, dites-nous, envoyez-nous sur Facebook des messages, disons qui vous étiez, ça serait marrant, qu'on lise ça ensemble et qu'on voit, et puis après on les relirait en public avec vos noms, et on dira, ah regarde, c'est un loser, ouais, t'es code.
On fera une FAQ.
J'adore, tu sais que je crois que c'est un de mes rêves de faire une FAQ, je crois que j'adore parler de moi. Du coup, j'adorerais
faire. On va peut-être réaliser un de tes rêves, Antoine.
Yes. Mais ok. Et du coup, est-ce qu'on passerait pas tout de suite à une nouvelle chronique?
Ouf. Alors, cette chronique, Antoine.
C'est une bêta. Alors, le problème, c'est qu'on a déjà été très long. On s'était promis qu'on n'avait pas beaucoup de recommandations et que ça allait aller vite. Là, je pense qu'on va enchaîner les deux dernières chroniques. Alors, je vais peut-être finir juste. Sur mes dernières recommandations.
Ah, tu veux encore en donner?
Alors, juste, ouais, ça va être très rapide. C'est juste pour parler d'un jeu. Qui s'appelait Bully, Canis Canem Elite, qui veut dire les chiens mangent les chiens en latin, qui est un jeu de Rockstar qui est sorti en 2006 sur PlayStation 2.
Rockstar qui a fait GTA.
Qui a fait GTA, Red Dead Redemption et tout, et c'est un genre de GTA-like où c'est un espèce de monde ouvert mais dans une école. Et c'est un gamin qui arrive c'est un espèce de bully, donc un peu une brute, qui arrive dans un lycée privé, dans un collège privé, et qui du coup doit battre les chefs de chaque bande pour se faire accepter.
D'accord.
Et en gros c'est un peu le prolo qui arrive chez les, pas chez les bourges, mais ouais un peu ça.
D'accord.
Et qui du coup, donc bully, ça veut dire brutaliser, harceler, tout ça, mais en gros lui il arrive avec cette réputation là, et en fait il va essayer de se lier d'amitié avec tout le monde, en fait il fait plus partie des freaks and geeks, des nazes au début, et il va essayer de gagner le respect de tout le monde, tu peux accéder à la ville et tout.
D'accord.
Très bon souvenir de jeu, je m'en rappelle, c'était assez marrant. Et non, oui, et dernier, ouais, j'aurais voulu passer plus de temps, mais très rapidement, je vous parle de Community, qui parle de l'université cette fois-ci, de 2009, entre 2009 et 2015. Donc, le scénariste principal, c'était Dana Harmon. C'était avec Alison Brie, Donald Glover, qui... Alors, par exemple, Donald Glover, certains le connaissent peut-être mieux sous le nom de Childish Gambino, le mec qui a fait This is America, donc il joue dedans, il est génial.
D'accord.
En fait, c'est une série qui se... Le pitch, c'est un avocat super successful, enfin, qui est hyper fort, perd sa licence d'avocat parce que les autorités se rendent compte que sa licence qui vient de enfin il a eu le diplôme de Columbia, donc c'est une super université aux États-Unis, et en fait c'est Columbia en Colombie donc il a pas du tout le vrai truc, et du coup il doit retourner à l'université, et en fait il va à l'université publique, et aux États-Unis en fait toutes les universités sont privées, l'université publique c'est vraiment genre les freaks and geeks quoi, c'est vraiment les gens un peu chelous qui viennent repasser leur diplôme parce que ils ont eu des moments dans la vie très bizarres, et en fait il arrive là hyper sûr de lui, et pour choper une meuf il crée un groupe de soutien en espagnol pour pouvoir se retrouver seul avec elle, et en fait il y a 15 personnes qui se ramènent, enfin ils sont 6 ou 7, et en fait c'est que des gens très bizarres, et la série il y a 6 saisons. Les 3 premières saisons sont excellentes. Moi, j'ai pas vu après parce que le scénariste s'est barré, la saison 4 est moins bien, il revient dans la saison 5, mais voilà, c'est plus pareil. Mais je vous conseille vraiment les 2 premières saisons et la 3ème aussi. Mais vraiment, les 2 premières saisons, c'est du génie. Je pense que juste ces 2 saisons-là font partie de mon top 3 de séries préférées et des séries les
elle est incroyable. Vraiment, si vous aimez Scrubs, allez-y, c'est Scrubs, mais en encore presque plus intelligent. C'est franchement incroyable. Okay. C'est génialissime et c'est hyper second degré. C'est vachement adulte parce que justement, il y a tout le côté tire-larme et tout ça, c'est toujours hyper bien amené et puis c'est toujours très très fin parce que souvent assez ironique, c'est très cynique et tout ça. C'est franchement en Community. Il y a des épisodes mythiques où ils jouent au paintball. C'est aussi un truc qui prend beaucoup de situations, par exemple de films de western, de films de machin, ouais, pour les détourner à leur sauce, en sauce dans l'université. C'est vachement bien, c'est excellent.
Ok, bah voilà. Merci pour ces dernières recommandations.
On va passer du coup maintenant à notre...
On est en bêta-test.
C'est une nouvelle rubrique bêta-test, il n'y a pas encore de jingle, mais on en fera un si ça vous plaît. Si ça vous plaît, elle reviendra à la rentrée.
Ouais, dites-nous.
Dites-nous, là, faudra vraiment que vous nous disiez bien. Si ça vous plaît ou non, on part sur le d'accord, pas d'accord.
Est-ce que tu es d'accord ?
Jingle improvisé. Il est d'accord, mais je ne suis pas d'accord.
Je suis d'accord, mais il n'est pas d'accord.
Tu es d'accord, je suis d'accord, nous sommes d'accord.
Ont-ils tombé d'accord ?
Joli. Le d'accord, pas d'accord, c'est tout de suite.
C'est maintenant.
Et de quoi allons-nous parler dans ce d'accord, pas d'accord ? Bon, le titre est clair, déjà on est pas obligé d'expliquer.
Ouais, c'est
on parle d'une œuvre, il y en a un qui va la défendre, l'autre qui va l'attaquer.
Une espèce de débat.
C'est ça. Et devinez...
On avait déjà tenté de faire un débat avant, je me souviens. Sur
entendre des trucs.
Sur je sais plus quel épisode.
Bah non, mais même c'était sur un pilote, c'était une des premières idées. On avait fait Walt Disney. C'était une des premières idées du podcast.
Et non, sur les super-héros aussi, Wolverine contre Spider-Man.
C'est vrai. Voilà. Ouais, et t'avais été ridicule.
Exactement.
Non, mais même c'était une des idées du podcast, à la base on voulait faire des débats l'un contre l'autre. Du coup, là, ça m'entrera sur La folle journée de Ferris Bueller,
ouais,
qui est un film de 1986 de John Hughes. Avec Matthew Broderick et Alan Rock, j'en sais rien.
Film qu'on vient de voir avec Antonin.
Qu'on a vu récemment, et donc du coup, il y en a un qui va le défendre, devinez qui c'est.
It's me.
C'est Rémi, et un qui va l'attaquer, devinez qui c'est moi, bien sûr.
Antonin.
Mais dans le d'accord, pas d'accord, ça permettra aussi que moi je défende des choses que lui va attaquer, ce sera pas toujours moi qui va faire des coups de gueule. Folle journée de Ferris Bueller, est-ce qu'on peut résumer très rapidement, tu t'en occupes, j'en occupe?
Ensemble. Ah ouais. Alors, c'est un étudiant, il est en... Je sais pas comment
lycée.
Ça marche aux États-Unis, c'est lycée,
c'est
en fait.
Ouais, c'est comme...
Et donc, qui va décider de se prendre une journée off, en gros.
Ouais.
C'est pas la première fois qu'il fait.
Sa neuvième, comme on dit, neuvième absence du semestre.
Neuvième absence.
Il fait croire qu'il est malade à ses parents.
C'est ça.
Et du coup, il va essayer de vivre une journée de fou.
Plan en place.
Ouais, il met tout un plan, il va essayer de vivre une journée de fou pour cette journée. Hors des cours, alors tout le monde y est.
Voilà. Le directeur
du proviseur va absolument essayer de l'attraper la main dans le sac.
Pour l'attraper parce qu'il en peut plus de ses absences.
Voilà. Et donc, du coup, moi j'en ai entendu parler dans un épisode de Karim Debbache, qui je crois était sur Brain Scan.
Ouais.
Je crois qu'il en parle dans celui-là. Et donc, lui, c'était une grande référence. Et je suis au regret de dire que c'est la première fois de ma vie que je ne suis pas d'accord avec Dieu Karim Debbache. J'ai trouvé ce film très agaçant.
Très agaçant à ce point.
Bah assez bon, là je vais en faire un peu plus pour que le débat soit intéressant, pour que ce soit tiède, mais franchement il m'a pas mal dérangé sur plein de points.
Ouais.
Alors je vais commencer le premier argument, je trouve, alors le film est à replacer dans une époque, c'est 86,
ouais.
Je pense qu'il y a tout ce truc là sur le reni de l'autorité, sur se prendre une journée pour vivre sa vie, en fait c'est Ferris Bueller qui arrête pas de dire, bah justement ça commence où il dit... on prend pas le temps de s'arrêter pour regarder la vie,
ouais,
elle va passer devant nous sans qu'on s'en rende compte.
Exactement.
Ouais. Et du coup, il y a tout ce rejet-là des institutions, enfin des classes et tout ça pour aller s'amuser de son côté.
Ouais, et puis tu fais aussi de vivre une vie où tout devient banal en fait, où t'as
métro, boulot, dodo. C'est le rejet de la routine.
Ouais, c'est ça.
Moi, ce que je trouve très bien, c'est. Je te laisserai les arguments gentils.
Moi,
ce que je reproche en fait, c'est que je trouve que du coup, ça tombe un peu dans cet écueil-là où t'as l'impression que ça critique les gens qui décident de suivre les règles, de vivre une vie normale avec une maison en banlieue et machin. Et moi, c'est un truc qui m'énerve. Alors peut-être qu'à l'époque, c'est très important. Moi, encore une fois, je déteste parler des films dans le prime de l'époque. À l'époque, c'était peut-être un très grand film. Moi, je parlais avec mon recul actuel de quand on le voit maintenant, aujourd'hui, en 2019. Moi, en le voyant aujourd'hui, c'est un truc qui m'agace parce que je trouve que du coup, il y a vachement un mépris sur toute cette frange-là de la population de, voilà... tout le côté mainstream de « j'ai une Volvo, j'ai des gosses, métro, boulot, dodo ». Et qui peuvent convenir à certaines personnes, et que le côté « oh là là, vous êtes des moutons, vous êtes en cours, les adultes sont des robots, et nous, on a trop de la chance d'être des jeunes », je l'entends, mais je trouve que des fois, ça s'accompagne d'un jugement porté sur cette vie-là qui, moi, me gêne un peu.
Mais alors, moi, en fait, ce jugement-là, je ne l'ai pas vu. en fait. Je l'ai pas trouvé dans le film. Je sais pas en fait sur quoi tu te bases, à part. Enfin, est-ce que tu parles du directeur?
Ah, le directeur, il y a un personnage qui est dans un restaurant qui veut pas le laisser bouffer parce qu'il se rend bien compte qu'il est. En gros, le problème en fait, je trouve, avec Ferris Bueller, c'est qu'il est très désagréable. C'est un personnage qui est totalement antipathique.
Mais
et qui
je
va...
suis pas d'accord.
Alors, moi je trouve, encore une fois, c'est très personnel, ouais. Mais moi je trouve que c'est un personnage qui est très désantipathique parce qu'il va toujours transformer les choses pour que ça se passe bien pour lui, pour que ça rentre dans l'ordre pour lui. Et du coup, même quand il a tort, eh ben, il va s'arranger pour faire en sorte que ce soit les autres qui passent pour des cons. Et moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que si le personnage, enfin après, c'est encore une fois, moi, avec ce que j'aime, avec, je dis pas du tout à Joe Dukes comment refaire le film, hein, pas du tout. Il fait ce qu'il veut, enfin, c'est un très grand film, mais. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que moi, si le personnage avait été plus ingénu, il aurait fait peut-être avec moins de malice, moins exprès pour humilier les gens, ça m'aurait pas gêné. Mais là, par exemple, tu vois, il y a une scène où il va au resto, où il dit bah, je suis machin, quelqu'un de très important. Il y aura d'un nom sur un registre, il dit que c'est lui. Le mec lui dit clairement bah non, c'est pas vous, et cassez-vous parce que j'ai autre chose à branler. Donc là, on est dans une situation de un ado vient faire chier un adulte qui est en train de lui de faire son boulot. Et bah, toute la situation va changer pour que grâce à sa ruse, il va arriver à le berner et à. Et a passé pour un mec super cool. Et moi je trouve que juste en fait tu t'es comporté comme un connard. Et vu que t'es un connard, t'es arrivé à tes fins qui est un résultat de connard. Et le mec du coup va s'excuser devant lui et ses potes. Et lui, au lieu d'être grand seigneur, lui dire bah non, c'est pas grave et tout ça, en mode bah j'ai déjà gagné, tu vois, j'ai pas en plus humilié, il l'humiliait un petit coup en plus pour lui dire bah t'es une belle merde, t'avais pas à me manquer de respect. Et moi je trouve que c'est tout ce truc là qui vraiment fait passer les adultes pour des gros cons et les jeunes pour des ouais, on est trop cool et tout ça, on a raison, on t'a bien eu quoi.
Moi je trouve
j'ai raison, allez, t'as plus l'argument, c'est fini.
J'ai l'impression que tu veux trop lui mettre une tare d'égocentrique sur lui à Ferris Bueller.
C'est un fils de connard.
Moi, je le vois pas si égocentrique que ça. J'ai juste l'impression que c'est un ado qui a envie de s'amuser et de sortir un peu du carcan dans lequel il est coincé depuis qu'il est né, en fait, de celui de l'école. Et qui a envie de s'éclater, en fait. Et je trouve ça normal et je trouve ça. Je trouve ça même bien. Parce
je le comprends du prisme du personnage. Ça, je suis d'accord avec ça. Je trouve ça très bien. Ouais. Moi, ce que je propose, c'est le prisme du film qui est fait par un adulte et qui va du coup mettre cette espèce de truc-là cool de s'émanciper tout de suite sur un truc de, du coup, avec les adultes. Par exemple, tu vois, le proviseur, c'est un gros loser, du coup, c'est un gros con, il passe pour un gros con. En fait, le truc, c'est que tout s'arrange toujours pour Ferris Bueller et c'est un parti pris, mais moi, ce qui me gêne, c'est que du coup, il est jamais pris en tort. Et le truc-là de vouloir s'émanciper, je trouve ça très bien. Mais le problème, c'est que par exemple, tu vois, typiquement, le truc sur la voiture, il y a tout un truc où il veut absolument la voiture Ferrari de ouf du père de son meilleur ami. Et le meilleur ami dit, bah non, il y tient comme à la prunelle de ses yeux, c'est le truc le plus important chez lui, il faut pas y toucher. Et lui va monter dedans, démarrer le truc, se barrer avec, revenir en marche arrière en mode, bah de toute façon je l'ai prise, donc viens. Et en gros, le mec va passer une journée de merde parce qu'il va stresser à cause de la voiture, le mec est en mode, bah non, on s'en branle, je fais comme je veux. En gros, il fait comme il veut, le mec est trop mal. Et à la fin du film, et moi ce que je reproche, c'est que... Ouais. À la fin du film, l'argument c'est « Ah bah non, je l'ai fait pour toi pour que tu te décoinces » et c'est « Ah bah t'avais raison, ça a vachement bien marché, ça m'a décoincé. » Et moi, dans la vraie vie, dans notre monde à nous, je déteste les gens qui sont comme ça, qui font des trucs par pur égoïsme et qui le justifient en mode « Non, mais ça lui fait du bien. » Tu vois, les mecs qui vont forcer quelqu'un à sortir en ville, à boire des coups, à se bourrer la gueule, à fumer des pets, et après, la personne est super mal, mais qui dit « Non, mais ça le détend un peu. » Alors qu'il l'a juste fait pour soi. Pourquoi il va le voir? Pourquoi il lui demande de venir? Parce qu'il a besoin de sa caisse, parce qu'il veut sa nouvelle voiture, parce que machin. Et tout est fait de manière égoïste, mais le film va justifier tout ça en lui donnant des bonnes répercussions. Donc tant mieux, mais c'est pour ça que je ne juge pas Ferris Bueller dans le personnage, dans ce qu'il veut faire, ce qui est bien, mais c'est dans la justification que lui donne le film derrière, où il justifie tout par « Oh ça va, c'est quand même les autres qui sont plus des connards. » Tu vois, oui, ils sèchent les cours, mais en échange, les profs sont super chiants. Tu vois, les profs ils jouent tous de la même façon en parlant hyper lentement. Alors oui, bon bah il a raison de quitter les cours parce que les cours c'est chiant. Je trouve ça manque un poil de juste milieu quoi.
Eh ben moi justement j'aime cette simplicité. Je trouve ça.
Parce que tu es quelqu'un de simple.
Voilà, parce que je suis quelqu'un de simple.
Tu es un peu simplé, mon petit.
Et de gentil.
Il est mignon.
Non, mais oui, je suis d'accord avec toi. En fait, j'ai l'impression que.
En fait, je suis d'accord, c'est de la merde.
Non, mais dans le sens où. Dans ce que tu dis, c'est que tout tourne autour de Ferris Bueller et tout va pour que lui réussisse son objectif dans le film. Et même, de toute façon, le titre du film, c'est ça, c'est la folle journée de
Ferris. Ouais, je sais pas ce que c'est en VO.
Mais comment il s'appelle? Félix?
Mais il s'appelle Ferris, déjà. Ferris, alors déjà, premier mauvais point, qui s'appelle Ferris, quoi. Déjà, son prénom, c'est Ferris. Respectez-vous!
Cherchez les Ferris sur Wikipédia, est-ce que vous en trouvez?
Et insultez-les. Non, ne le faites pas. Je plaisante.
Mais moi, justement, ce que je... J'ai l'impression, en fait, que c'est une espèce de road trip movie, un peu. Et que, justement, c'est ça le but du film, c'est que on ne sait pas si ce qui se passe est vrai ou ce qui se passe, enfin s'il le rêve pas un peu aussi, ou si c'est pas, je sais pas.
Mais alors très bien, mais moi, pourquoi alors tu mets la scène avec la voiture? Pourquoi tu mets absolument? Moi ce que j'aime pas en fait, c'est que tous les côtés où il passe pour un connard, c'est justifié après pour le faire passer pour un mec encore mieux que ce qu'il est. Tu vois, je veux dire, si c'était un buddy movie, un road trip, pourquoi son pote il veut pas venir tout de suite et puis il passe une journée de ouf et puis le pote est pas sûr parce qu'il stresse et puis il lui montre que finalement il y a rien à stresser. Ce qui est gênant je trouve, c'est qu'en fait il fait tout à l'encontre de la volonté de tout le monde et ça finit par dire « Ouais mais regardez, finalement tout le monde en sort grandi ». Tu vois, et en gros, moi je trouve que c'est un peu une ode à l'égocentrisme
c'est
de...
C'est pas tout le monde en sort grandi, c'est juste lui qui en sort.
Bah, lui, c'est le lui, meilleur ami. Sa copine, son meilleur ami, voilà, sa sœur.
C'est eux trois.
Bah sa sœur aussi.
Oui, la sœur, oui, bah, en fait, c'est les jeunes, en fait, finalement.
Oui, et puis même, tu vois, même du coup, le proviseur, bah du coup, il retourne dans le bus scolaire. Enfin, t'as de juste, j'ai pas trop compris, mais tu vois, il retourne dans le bus et du coup, bon bah, tu vois, il retourne peut-être à... Tu vois, je me dis, bah peut-être que du coup, il s'est calmé, enfin j'en sais rien, tu vois, mais... Je sais pas, moi, je trouve en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que voilà, on va tout justifier et tout le rendre encore plus cool que ce qu'il est, alors que, comme en fait, j'ai envie de voir le film que t'as vu. J'ai envie de voir, tu vois, un gamin qui a envie de se libérer d'un carcan. On venait d'accord, enfin, moi, je le trouve antipathique. En fait, il y a une scène de fin de course-poursuite où il va rentrer chez lui, les parents vont le choper. Moi, j'avais qu'une envie, c'est qu'il se fasse choper, en dehors d'un petit côté mesquin que j'ai, de me dire, ah, tu vas prendre cher. C'était aussi de me dire, bah, peut-être que la morale, c'est ça aussi, c'est pas que rien n'a de conséquences, c'est peut-être que bah, tu vas te faire défoncer, mais ça valait le coup parce que t'avais qu'une journée de ouf, tu vois. Moi ça j'aurais trouvé ça intéressant, qu'à la fin il se fasse choper, qu'il se fasse défoncer, mais que sa relation avec sa sœur se soit améliorée, que sa relation avec son meilleur ami soit améliorée, que là justement il prenne sur lui en se disant « bah je me fais défoncer, mais au moins j'ai vécu une journée de ouf, et peu importe les conséquences ». Mais même pas, tu vois, c'est en fait finalement bah, tout rentre dans l'ordre, regardez, j'ai fait mon petit connard, et puis hop, tout le monde croit que je suis un mec génial. Ses parents, il leur dit « je t'aime », mais c'est hyper ironique, t'as l'impression qu'il en a rien à branler de ses parents.
Bah c'est normal.
Ses parents sont comme des armes en plus, mais... Non, moi je suis désolé, mais quand j'étais ado, j'aimais mes parents et je m'en servais pas pour comme des excuses. Mais moi aussi, je suis un être humain, super vraiment génial. t'es plus mesquin, t'es peut-être
mais
plus mesquin.
Après, à la limite, si tout avait été génial et si tout s'était passé sans accroc aussi, le film, enfin, comment dire, ça aurait pas été non plus...
Non, mais c'est ce que je dis. Je dis que tout ça a été génial et tout se passe sans accroc. C'est ça que je lui reproche au film.
Ben non, justement. Enfin...
Ben non, il y a aucune conséquence à cette journée. De négatif.
De négatif ?
Le directeur, le proviseur se fait... le proviseur a perdu. Avec sa sœur, ça va mieux. Ses parents, ça va toujours aussi bien. Son meilleur ami, ça lui permet de régler des trucs avec son père. Sachant que cette scène-là, on la voit pas parce que son meilleur ami, du coup, pète la voiture qui est ultra chère à ses yeux. Donc son père, c'est son bébé, enfin la voiture.
Moi, j'ai pas l'impression que ça va faire juste que son meilleur ami va forcément aller mieux. En tout cas, il va.
Mais c'est tout ça le propos. Juste un truc, parce que pour les gens qui l'ont peut-être pas vu ou qui s'en rappellent pas bien, la voiture, en fait, c'est une Ferrari de collection que son père a retapé tout ça. Le père, on le voit jamais, mais il a retapé et il dit qu'il y tient plus que tout au monde. Et du coup, il la défonce, il la casse. Le fils, donc le meilleur ami, il casse la voiture en disant « Bah mon père, s'il y tient tellement, ça veut dire qu'il s'il m'engueule, en gros, il tient plus à la voiture qu'à moi. » Déjà, c'est quoi cet argument pété? Moi, j'ai... Déjà, c'est débile, faites ça à vos parents, vous allez voir, tu pètes la table de chez toi et tu dis « Ah bah, si t'es même plus que la table, bah tu devrais me dire. » Non, ça marche pas comme ça la vie, déjà, espèce de petit con. Et surtout, en fait, on voit pas la conversation, parce que moi, je dis aussi bien, le père, il rentre, il lui en colle une, il le fout dans le coffre de la voiture, il le crame, en fait, aussi bien son meilleur ami, il est crevé, tu vois. Mais non, mais tu vois, tout se résout en mode « Ah bah, du coup, ça va permettre au fils de parler, c'est le meilleur ami, c'est quelqu'un de très stressé. » Et bah là, du coup, ça lui fait sortir de son carcan. « Oh, comme c'est bien, merci Ferris Bueller d'avoir été un gros égoïste de merde et qui m'a permis de me rendre compte que j'étais quelqu'un de coincé, quoi. »
Moi, j'ai pas tellement vu ça dans le film, ça m'a pas tellement... Enfin, en tout cas, j'entends ce que tu dis, mais ça... Je retiens pas ça du film. Moi, je retiens plutôt le côté... Bah, ce qu'il répète au moins 5 fois dans le film, là, des fois, il faut savoir s'arrêter et regarder ce qu'on est en train de faire, parce que sinon,
ça c'est très bien, passe devant. Mais pareil, moi, tu vois, moi, ce qui me gêne aussi, c'est pourquoi... Enfin, c'est pareil, après, moi, peut-être parce que c'est une revanche personnelle, mais le truc sur le fait aussi que ce soit le super cool kids, genre, tout le monde l'adore. Il y a une scène comme ça où on dit bah, que toutes les classes, toutes les franges du lycée l'adorent, quoi. Quand ils apprennent qu'il est malade, ils montent un... ils font une collecte d'argent pour lui repayer un rein et tout ça, alors que...
Oui.
Et tu vois, c'est ce genre de truc où je me dis, bah, qu'est-ce que ça apporte de voir un gamin qui est super populaire pour qui tout se passe bien? En fait, moi, je me rends juste compte que c'est plus les histoires que j'ai envie d'entendre. Ça peut parler à certains, mais moi, tu vois, j'aurais préféré clairement voir le meilleur ami dans... en rôle principal. Voir le mec ultra stressé et tout ça qui se dit ouais, bah non, merde, je casse les codes et, le, et moi je vais m'éclater parce que je l'ai décidé quoi. Et tu vois, par exemple, moi ce que je trouve gênant aussi, c'est que Ferris Bueller, à partir du moment où il ramène son meilleur ami dans l'histoire, il va dire bah en fait le fait pour lui, pour le décoincer tout ça, pour qu'il ait moins peur, pour qu'il stresse moins et tout ça, pour qu'il soit moins névrosé. Alors qu'en fait tu le vois au début du film où il dit je vais prendre cette journée pour moi, pour me faire plaisir, pour la rentabiliser et tout. Et après il essaie de te faire croire que en fait ça se passe en que c'est par rapport à son ami et tout. Et en fait j'ai juste l'impression de voir un gros connard hypocrite. J'utilise des grands termes, mais de voir un gamin insupportable et suffisant et sûr de lui-même manipuler les gens autour de lui pour son propre plaisir et que en plus tout le monde lui donne raison. Et moi je trouve ça gênant, et je trouve ça encore plus gênant que t'es pas un truc qui se résolve à la fin de dire bah voilà tu t'en prends plein la gueule mais au moins tu te sacrifies pour les autres et là ton geste a été intéressant.
J'ai vu ça aussi mais tu vois c'est bon, ça me dérange pas tant que ça en fait.
Non mais moi c'est pas que ça me dérange, c'est juste que du coup je trouve que moi en tout cas je dis pas que du coup c'est un mauvais film, je dis que moi du coup ça me touche beaucoup moins.
D'accord.
Tu vois moi quand Karim Debbache en a parlé je me suis dit putain ça a l'air d'être génial,
ouais, ouais.
L'histoire de ce gamin qui décide de prendre sa journée, mais tu vois pareil,
oui.
Tu vois moi quand on m'en a parlé, quand j'ai lu le résumé c'était pour moi tu vois le gamin, enfin l'ado tu vois qui se dit eh bah merde, je dis merde à tout et je prends ma journée quoi, et qui va se démerder pour pas te faire engueuler et tout parce que c'est un enjeu, mais en fait même tu vois moi il y a un des trucs que je trouve entre guillemets raté ou du coup moins intéressant que ça aurait pu être,
ouais.
C'est que c'est sa 9e journée d'absence et que du coup bah il y a le moins le côté tu vois de trucs de ouf absolument.
Oui.
Et que les enjeux de se faire engueuler, je les vois pas trop, tu vois.
Et finalement, on s'inquiète pas pour lui parce qu'on
s'en fout.
Il a des, comment dire, il a des astuces pour réussir dans tout. Enfin, il connaît toutes les ficelles et tout. Il arrive à un moment à enlever ses astuces sur le registre, enfin sur l'ordinateur.
Oui, il arrive à enlever ses absences et tout ça. Oui.
Enfin, on a l'impression qu'en fait, c'est vrai qu'il maîtrise tout du début à la fin.
Et moi, je trouve ça un peu gênant. Enfin, moi, je trouve que du coup, ça manque un peu. Enfin, du coup, le propos peut un peu manquer son coche.
Ouais.
Le truc de dire tu vois arrêtez-vous pour regarder la vie, j'ai envie de dire bah j'ai l'impression que tu le fais assez pour pas nous donner des leçons mieux Jean-Michel Adot quoi. Tu vois que non mais tu vois si à la limite c'était l'autre hyper coincé qui nous disait putain bah même moi j'y arrive faites-le, ça m'aurait peut-être plus parlé quoi. Que Jean-Michel je réussis tout et en plus je vous donne des leçons derrière. Un autre truc moi qui m'a dérangé c'est que je trouve qu'ils jouent tous très mal.
Je sais pas.
Ils ont de manière hyper robotique, enfin en tout cas au début mais en ils fait, ont de manière hyper robotique de jouer. Ferris Bueller s'adresse à la caméra. Ce qui est un parti pris intéressant, je trouve.
Ouais, carrément.
Qui, je trouve, apporte pas grand chose au propos, mais peut-être parce que je suis trop con. Enfin, ça, je pense qu'il y a des théories. Enfin, il y a des gens qui sont plus calés en cinéma.
À la fin, il y a le proviseur qui fait un regard caméra aussi.
Voilà, c'est ça.
Et
ouais.
C'est le seul personnage
ouais,
qui.
Avec Ferris Bueller. Mais du coup, peut-être qu'il y a tout un.
Comme s'il réalisait un truc.
Oui. Oui, comme un petit peu de dire, bah, vous prenez peut-être que justement. Le
lui, justement, lui, il a eu son jour aussi.
Oui, mais peut-être que.
Grâce à Ferris Bueller aussi, il a eu son jour.
Mais peut-être que le film veut aussi nous dire, bah, vous prenez pas la tête, c'est un film, c'est une fiction, j'en sais rien, je sais pas si c'est ça le regard caméra.
Ouais,
je trouve que ça apporte pas grand chose, mais. Enfin,
oui,
que,
oui.
Ça apporte pas grand chose, mais que par contre, au niveau du. Ça, je trouve ça original.
C'est
que
la distance,
c'est sympa, quoi. Mais pareil, tu vois, je trouve que lui, Broderick, il joue vraiment comme un robot. Je trouve que c'est un jeu qui est daté, quoi. Je trouve que c'est un jeu qui est daté.
Ouais.
C'est vraiment ancré dans. En fait, je trouve que c'est un film qui est vraiment ancré dans une époque.
Moi,
et...
ça m'a surpris, mais ça m'a pas empêché de rentrer dedans.
C'est... Moi, y a des moments où tu vois, je t'ai fait des réflexions pendant le film en te disant,
ouais.
Faut quand même prendre des cours de comédie, quoi. Non, mais je trouve juste que je pense que c'est très daté dans une époque, mais je trouve que.
Moi, c'était plus au niveau du rythme que les... moi, que j'ai vu.
Ouais, le rythme aussi, putain. J'ai lu une critique où il disait que le rythme, c'était genre Beat It de Michael Jackson, où genre ça bouge, il y avait toujours quelque chose et tout. Je trouve qu'au contraire, il y a des cuts qui sont hyper. Qui sont hyper secs, mais...
Moi, c'est plus comment les choses se mettent en place...
Ouais, je trouve ça... Mais j'ai failli m'endormir à un moment, je trouve ça...
Ça m'a un peu fait penser au premier Star Wars, que j'adore, hein, mais ouais, je veux dire... comment dire tu sens que c'est le rythme d'une époque aussi.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et que maintenant, on est tellement habitué
moi, je que, voilà,
au rythme YouTube aussi, et des trucs qui... Enfin,
ouais,
les films, quelque
que,
part...
Ouais.
Non, mais je veux dire, enfin, j'ai l'impression que les médias vont beaucoup plus vite aujourd'hui.
Oui, bah, je pense aussi qu'on est habitué à des films de qualité.
T'es dur.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, oui, mais tu vois, moi, il y a plein de films de cette époque que j'adore, tu vois. Et qui, sauf le rythme, me gêne pas du tout. Le Taxi Driver, quand je l'ai vu, le rythme m'a pas du tout gêné.
Ouais, alors là,
après, on va parler de Taxi Driver. Mais... Non, mais même, tu vois, je veux dire, les Tontons Flingueurs, qui est encore plus vieux, tu vois, qui est un truc français, le rythme, il me gêne pas du tout. C'est aussi rythmé par des répliques, par des trucs. Je veux dire, il y a plein de vieux films, enfin, genre, il y a plein de films de ces années-là, moi, qui m'ont jamais gêné au niveau du rythme.
Ok.
Mais après, comme moi, pour finir, juste mon avis, je pense que. Je dis pas du tout que c'est un mauvais film, je dis que c'est un film qui est vraiment qui est ancré dans une époque et qui, moi, me parle pas du tout. Enfin, en tout cas, qui. Moi, messieurs, dames.
C'est toujours toi.
Quand je regarde des films, je prends vachement de distance et j'aime pas devoir me forcer à faire l'effort de me dire ah oui, mais attends, c'est sorti en 86. Moi, 86, j'étais pas là. Je m'en fous de comment les gens l'ont reçu en 86. Moi, avec mon prisme à moi actuel de ce que je vois, c'est pour ça que je juge pas du tout le film en soi sur ce qu'il est dans l'histoire du cinéma ni rien. Moi, en tant que spectateur, je ne l'ai pas reçu comme un truc de ouf. C'était sympa, mais assez agaçant.
Est-ce qu'il va te rester des billes pour ton coup de gueule? Oh, putain. T'as quand même beaucoup craché là.
Alors, moi, on a combien de temps de podcast là?
On est à 1h18 à peu près.
Ok, bah ça va être beaucoup trop long ce podcast, je suis désolé. Mais non, là il y a le coup de gueule qui va... Mais je vais aller vite, mais il va être faire très mal.
Est-ce que ce serait le moment du coup de gueule express?
Ouais, je pense. Coup de gueule rapide.
Ok, coup de gueule express, c'est maintenant.
Il paraît que t'as des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. Le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence.
Antonin, est-ce qu'il te reste assez de rage, assez de colère à
J'ai à peine
exprimer.
Commencé. Non, mais là je suis désolé, je vais m'éloigner du micro parce que je risque de crier un peu, mais vraiment. Je vais vous parler d'un film de 2019 sorti sur Netflix qui s'appelle La Grande Classe. Comme l'indique le titre de ce film, tout le film n'est qu'une merde.
Ah, ok, alors.
On va se calmer, là, je suis en train de faire
attention de ne pas faire saturer le micro.
Alors attention, moi, je tiens juste à dire quelque chose. Ouais. Quand, dans les coups de gueule, quand je dis c'est de la merde, c'est machin, je fais exprès de ne pas prendre des pincettes. Je ne juge pas. Enfin voilà, après, chacun fait ça pour les raisons qu'il veut. Vous avez le droit d'aimer, vous n'êtes pas des connards si vous aimez ce film et tout ça. D'ailleurs, j'aimerais bien que si des gens ont aimé, ils m'en parlent.
Avant toute chose, est-ce que je peux juste dire un truc?
Dis-moi.
Un fact, parce qu'on a vu le film ensemble. Hier soir. On l'a pas vu en entier.
Alors, non, mais ça va rentrer dedans. Ça va rentrer dedans.
Okay.
Je fais la petite présentation juste. La Grande Classe, de sortir en 2019 sur Netflix, de Rémi Four et Julien Noir, avec Jérôme Niel, Ludovic et Nicolas Bernot, entre autres, qui sont des acteurs de YouTube. Donc là, c'est trois acteurs de
voilà,
YouTube.
Voilà, des gens qu'on
connaît. Il y en a d'autres qu'on a croisés sur YouTube, et après, il y a des acteurs plus cinéma et tout ça.
Ouais.
Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a regardé, je pense, trois quarts d'heure du film.
Ouais, bien ça, ouais.
En mangeant, qu'on s'est fait tellement chier la bite. C'était tellement une daube infâme que moi, alors je vous dis, j'ai arrêté de fumer, je suis sorti, fumer une cigarette, tellement c'était insupportable. Rémi a continué 5 minutes de plus que moi, et après en fait on a fait avance rapide, on a regardé certaines scènes pour un peu voir ce que c'était, pour un peu voir comment ça se résolvait. Il y a un bon point dans ce film dont je vous parlerai après. L'histoire du film c'est quoi? C'est deux personnes qui étaient des losers au collège, et qui font une réunion des anciens du collège, auxquels ils sont pas invités, ils s'incrustent.
Déjà qui fait ça.
J'y viens Rémi.
Non, en fait, je sais pas pourquoi je t'énerve.
Déjà,
je vais pas te donner de billets.
Tu sais, on est que tous les deux, donc s'il y en a un qui doit se prendre une tarte, c'est toi. Hein, c'est, je suis désolé, hein, mais c'est soit le micro, soit toi, donc ne commence
ça
pas.
Va partir.
Mais comme tu dis, déjà, premier point, qui fait une réunion de collège, la seule raison de faire une réunion du collège et pas du lycée ou de la fac, c'est parce qu'il y a un des deux personnages qui s'appelle. Comment il s'appelle dans le film?
Lopez.
Donc c'est Jérôme Niel, oui, mais son prénom c'est. Jérôme.
Joe?
Non.
Jonathan. Il l'appelle Joe.
C'est Jonathan, et du coup, il y a deux Jonathan dans la classe au collège, un petit gros loser et un mec un peu Kaira, rigolo, enfin voilà, le mec cool.
Un peu cool.
Le cool kids, ouais. Voilà, qui a sa bande de gens cool, en gros les bullies, quoi.
C'est ça.
Et donc, du coup, lui, il arrive, et donc des péripéties, ils arrivent à la fête, et oh là, tout le monde croit que c'est Jonathan Lopez sur un quiproquo digne de spectacle de fin d'année de 6ème! Voilà, donc clairement, même Fedo, le quiproquo, il aurait fait non, les gars, non, mais arrêtez, c'est déjà fait. Même en 1602, ces quiproquos-là, on en avait plein le cul, quoi.
Fedo en 1602.
Enfin bon, quiproquo, bien sûr, parce que le truc hyper, hyper bien fait, hein, le mec s'amène et il fait t'appelles le Jonathan? T'es Jonathan Lopez? En fait, oh, Jonathan Lopez! Et du coup, tout le monde parle en même temps, il n'a pas le temps de s'expliquer, donc merci beaucoup la finesse du scénario, hein. Merci Jean-Michel Couillasse qui a écrit le scénario. Donc, déjà, voilà, donc ça, c'est tout le truc. Et en gros, les deux viennent pour se venger un petit peu d'avant. Parce que, enfin, il y a Jérôme Niel, du coup, donc le personnage de Jonathan Pinet, qui se fait prendre pour Jonathan Lopez, et lui, c'est sa revanche, mais en douce. Lui, c'est un peu un mec timide et qui a pas envie de le revoir ni rien.
Alors
et
que l'autre.
L'autre, donc, c'est
joué par Ludovic,
Pierre-Yves, je sais pas quoi, qui est joué par Ludovic, du coup.
Qui veut vraiment prendre sa revanche.
Qui lui
parce
est
qu'il
là
a
pour se venger parce qu'il a réussi. Il estime avoir réussi.
Ouais, enfin, voilà. Il estime. Ouais.
Du coup, en fait, le problème de ce film, je trouve que c'est que déjà, c'est du cliché. Alors là, on tartine du cliché à la merde. Les geeks, ils sont toujours geeks! Les mecs qui étaient les connards, les bullies, bah maintenant ils sont garagistes et alors, mais vraiment, je vous jure, il y en a un qui lave des voitures, il y en a un autre qui est chef de rayon dans un magasin de bricolage, et l'autre qui est un loser qui habite encore chez sa mère, et ça en gros c'est la vanne. Voilà, la vanne c'est que c'est des merdes.
Mais en fait, pendant la. Oui, non, pardon.
Tu fais poignarder là, je te poignarde.
Mais pendant la première demi-heure, c'est presque drôle parce que tu regardes, tu fais ah, le cliché.
Et mais sauf, non, mais sauf, mais sauf que mais ça, à quel moment t'as rigolé au bout d'un premier degré de psychopathe invétéré de con. mais jamais tu rigoles devant cette merde.
Je peux pas en placer.
Alors, non, mais déjà, attends, juste un truc. Première chose déjà, vous regardez la bonne annonce sur Netflix. C'est incroyable, j'ai jamais vu une entrée en matière se faire aussi vite. En fait, vous avez 2 minutes de mise en place et au bout de. Mais vraiment, je crois. 5 minutes, 10 minutes de film, ils sont déjà à la fête. T'as pas le temps de les connaître, ouais, les mecs, t'en branles quoi.
C'est vrai, c'est vrai.
Non mais en fait, ce qui est ouf, c'est que du début à la fin, c'est pour ça que je comprends pas d'où tu sors tes 30 premières minutes, à la limite on peut rigoler.
Limite, en fait, le générique de début, c'est la scène, enfin c'est le début en fait du film.
Non mais oui, en fait, y'a pas d'introduction, rien en fait. Dans c'est, le générique, tu commences, c'est déjà dans les péripéties. Passionnante en plus, c'est vrai que vous avez bien fait d'aller vite parce qu'il y a vraiment tant de choses à dire. C'est une suite de merde, je trouve même plus les mots. En fait, le problème, c'est que, comme tu vois, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis la première demi-heure. Déjà. Rien que pour vous dire, la première fois que t'entends les clichés, c'est déjà de la merde. Mais alors, en plus, quand tu bases un film sur ces mêmes clichés, c'est et que ça, pendant une heure et demie, non, c'est pas ça le problème. C'est que déjà, rien que le cliché, c'est déjà lourd. Alors, moi, le truc avec ce film, c'est que je veux juste demander, est-ce que c'est un film avec des bonnes intentions qui a été mal réalisé? Parce que, par exemple, il y a une scène toute bête où Ludovic, qui est un peu un mec désagréable, qui arrête pas de parler de niquer et tout ça, il va se retrouver avec le mec qui le harcelait un peu à l'époque. Et en gros, le mec qui le harcelait, donc c'est Nicolas Bernaud, qui est un acteur, moi, que j'adore, enfin qui est un acteur de YouTube, mais qui est comédien, mais qui est beaucoup sur YouTube, et qui est un mec que j'adore, je trouve qu'il joue très très bien, et qui en fait, lui dire en fait quelle est sa vie, donc lui il a des gosses, qui s'appelle Rihanna et Jonathan, merci, Rihanna, lol parce que c'est des beaufs, qui est un peu un beauf, qui fait du rugby, et qui a un truc de la voto, et qui est content parce qu'il va devenir patron de sa boîte, et qui dit voilà, lui il habite bon, à la campagne ou dans la banlieue, j'en sais rien. Et puis il y a Ludovic qui a un pété en disant bah ouais, bah, moi j'ai acheté un 75 mètres carrés à Paris et tout ça. Et en fait, cette scène, tu vas interpréter de deux façons. Soit c'est regardez, le beauf, il est tellement beauf qu'il s'en rend pas compte. Et du coup, c'est rigolo parce qu'en fait, Ludovic a vachement mieux réussi que lui et en fait, il s'en rend pas compte. Ou alors c'est au contraire, regardez, Ludovic il est ridicule. Enfin, Pierre-Yves machin est ridicule parce que lui il croit avoir réussi alors qu'en fait, c'est pas ça de réussir. Moi, au début, je l'ai pris comme ça, je me suis dit, ah bah pourquoi pas, ça pourrait être intéressant.
Oui, moi aussi.
Ça pourrait être le personnage du beauf, il est tellement montré comme un gros con bovin et débile que tu te dis, mais en fait, non, s'ils ont voulu dire ça, le reste du film n'est pas du tout cohérent, quoi. Et en fait, le problème, c'est que je sais pas si c'est un film mal fait avec de bonnes intentions ou un film avec de mauvaises intentions qui, du coup, réussit son but. Je sais pas si ça veut voguer sur le truc du. Soit. Bah, un truc de ouf. Le personnage principal, c'est un ancien gros. Au bout d'un moment, ils sont dans le gymnase, il se fait révéler. Voilà, gros drama et tout ça. Ah oui, puis aussi le personnage donc, de Hervé, donc Nicolas Bernaud, le gros beauf qui fait du rugby et qui fait du lavoto. En fait, il y a une scène où il est dans les toilettes et où il essaie de coucher du coup avec Jonathan en croyant que c'est Jonathan Lopez parce qu'ils ont déjà fait des trucs un jour dans une cabane. Et genre, ça, c'est une des vannes du truc. Et en fait, c'est pareil, tu sais pas si ils veulent nous parler d'un mec qui est pas bien dans sa vie parce qu'en fait, il est amoureux de son ami d'enfance et que ça le hante et que du coup, il arrive pas à avancer dans la vie, mais ça, tu le vois pas du tout.
Ouais, non, pas du tout.
Et en fait, du coup, t'as l'impression que c'est juste le gag de. Le beauf il est pédé. C'est doux, c'est drôle. Moi, dans cette scène, je me suis dit, bah juste, putain, le pauvre il doit pas être heureux du coup. Bah, si tu vois, il. Enfin, c'est super con. C'est... En fait, toutes ces trucs-là, c'est des billes qu'ils te donnent. Et tu sais pas en fait où ça amène. Tu sais pas s'ils veulent dire des choses bien ou des choses de gros connards. Et moi, malheureusement, j'ai plutôt retenu les trucs de gros connards. Du coup, il y a la scène de fin. C'est... Ils se retrouvent dans le gymnase. Il y a. Et... Non, mais ça, tu vois, pour moi, ça, voilà, ça symbolise que c'est le film. Je vous le spoil, mais alors, franchement. Si vous voulez pas venir au bout de 2 minutes de film, vous êtes vraiment des débiles.
Coupez le podcast.
Pardon, je suis désolé, c'est pas contre vous. Coupez le podcast maintenant si vous voulez pas vous faire spoiler. Mais en gros, à la fin, il est dans le gymnase et il se fait rembarrer pour tout le monde parce que tout le monde se rend compte bah, que c'était pas Jonathan Lopez, mais Jonathan Pinet. Et puis il se barre et il revient en disant ouais, je suis Jonathan Pinet, j'étais un gros lard, mais maintenant je le suis plus. Et en gros, la morale de son discours qui dure. Enfin, moi je m'attendais à un discours de ouf. Franchement, il dure 10 secondes son discours, c'est une tristesse, c'est aberrant. Oh, j'ai mal de partout. Je fais la fracture, je me calme, je suis en train de me faire un ulcère. Non, mais ce qui est ouf, c'est que voilà, la morale de son truc, c'est j'étais un gros lard, je le suis plus. Et je me dis, moi étant un gros lard, et je vous emmerde.
Non,
mais ce que je veux dire, c'est que je me dis, mais putain, c'est horrible de dire ça, quoi. Non, ce que je veux dire, c'est que je dis pas ça de manière extérieure en disant, ça pourrait choquer des gens. Non, c'est que moi, en tant que personne en surpoids, en général, je m'en branle, enfin, je m'en fous de ça, mais c'est même pas la question, c'est juste de me dire, mais. T'essaies d'être tolérant, espèce de gros con. Si tu veux parler de la tolérance d'être gros, bah pourquoi ton personnage tu l'as pas laissé gros?
Pourquoi t'as pris un mec qui est tout queuse pour faire ton rôle? La morale, c'est vraiment vous étiez gros mais vous l'êtes plus, tu vois. C'est comme dans un film sur le racisme, on disait ouais, j'étais noir, mais je le suis plus. Mais c'est horrible, tu te rends pas compte que tu passes à côté de ton propos, espèce de gros con. Enfin, voilà, en gros, il passe totalement à côté du propos. C'est vraiment, voilà, c'est exactement qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, quoi. C'est vraiment, non, mais tu vois, ils veulent rigoler de la tolérance et du coup, ils sont hyper intolérants et là, c'est pareil. Ils veulent rigoler du racisme, sauf que du coup, eux, leur manière, au lieu de montrer des gens qui sont tolérants, ils montrent des racistes. Mais vu qu'ils le sont tous, bah ça va, bah non. C'est pareil, tu vois, là, au lieu de montrer des gens qui sont tolérants, qui ont évolué et tout, ils vont montrer que des gros cons réunis. Mais c'est pas ça qui fait que vous êtes des gens bien. Là-dessus, je vous conseille, et je vais peut-être pas tout à fait m'arrêter là-dessus, mais bientôt, je vous conseille la vidéo de l'Icarion sur 25 conneries dans Fight Club. L'Icarion Rock, c'est un mec qui fait des vidéos, j'aime pas forcément tous ses formats, tout ce qu'il fait, tout ça. Je trouve ça assez pas inégal parce que c'est un jugement de valeur sur son truc artistique, mais moi tout ne me parle pas.
Ouais.
C'est un mec qui est souvent taxé de social justice warrior parce qu'il défend plein de causes, ce que moi je trouve ça plutôt bien. Et c'est un mec en gros qui parle de Fight Club et qui en gros explique pourquoi les gens ne comprennent pas le personnage de Tyler Durden. Et en fait, t'as plein d'articles genre soyez un mâle alpha comme Tyler Durden, donc dans Fight Club c'est Brad Pitt. Et en fait, il explique que, en gros, tout le film est censé démontrer que Brad Pitt, c'est pas un bon exemple pour le personnage principal. Voilà, donc allez le voir si ça vous intéresse, c'est vraiment passionnant, c'est vraiment très très. Je trouve que sa vision est très intéressante.
Comme les gens qui idéalisent Scarface.
Scarface, voilà, typiquement, voilà. Et,
le gangster.
Mais après, il explique aussi où est-ce que Fight Club et Scarface ratent un peu le truc aussi.
Ouais.
De dire, tu vois, bah, par exemple, moi, Scarface, c'est un truc où, à partir du moment où tous les mecs qui se veulent gangsta le citent, c'est que le film a un peu raté son but, qui était de critiquer le rêve américain. Enfin voilà, moi je trouve que c'est un autre débat.
Ouais.
Et ben, le problème de ça, c'est que c'est pareil, c'est un film qui, je suppose, se veut sur la tolérance et le fait de s'accepter et tout. Et en fait, quel moyen de s'accepter quand t'es un petit gros? Bah de plus être gros. Mais c'est pas une victoire en soi de plus être gros, c'est une victoire. Enfin, c'est une victoire si c'est un choix que t'as décidé de ça, mais c'est pas une victoire en soi, c'est pas un truc à dire. Ouais. Si vous êtes gros, ne le soyez plus. Si vous êtes geek, ne le soyez plus. Si vous aimez les échecs, arrêtez d'aimer les échecs si vous voulez être cool. Et en gros, le film veut te dire qu'il faut être qui tu es, mais il faut quand même changer un peu parce qu'il faut pas déconner, quoi.
Ah ouais, c'est vrai.
Et je trouve ça terrible et hyper humiliant. Et pour finir, je trouve encore plus dommage que j'ai lu des interviews de Jérôme Niel qui disait « Je suis hyper content de pouvoir faire du cinéma et tout ça. » Et moi, je trouve ça horrible qu'on propose à des acteurs... Enfin, je trouve ça dommage qu'en fait, les acteurs de YouTube se retrouvent à faire ça.
Ouais.
Parce que du coup, pour eux, c'est une chance, mais je trouve qu'ils jouent pour la plupart comme des chèvres. Mais je le dis, je pense pas que ce soit de leur faute, c'est que les répliques sont tellement abscons et la mise en scène est tellement mais nulle à chier. Franchement, je suis désolé si vous avez fait ce film et que vous m'écoutez, mais de toute façon, vous avez certainement d'autres choses à vous reprocher. Et ce que je veux dire, c'est que les répliques sont connes, ils peuvent rien jouer, quoi. C'est vraiment les répliques tombent à côté, quoi. J'ai l'impression que enfin voilà, c'est vraiment, ils font ce qu'ils peuvent et ça suffit pas parce que c'est de la merde.
Ouais,
quoi.
Comme on se disait, même si tu mettais les meilleurs acteurs.
Non, mais voilà, franchement, tu mets De Niro et Al Pacino dans ces rôles-là. Gérard Depardieu, le cocktail absolument improbable, il jouerait tout aussi mal. T'as des scènes totalement absurdes où les geeks se vengent des beaufs, mais alors du coup, les gamins viennent en fait martyriser les geeks. Les enfants des beaufs viennent se martyriser les geeks, et du coup, t'as envie de dire, mais la morale, c'est quoi du coup? C'est que les geeks, ça reste des merdes? Lol. Enfin, je sais pas. En fait, tout le monde sont des connards et ils essayent de te faire dire, bon voilà, vu que tout le monde est des connards, tout le monde est gentil, ça marche pas comme ça. Si tout le monde sont ou est des connards, c'est jamais qu'on dit, et c'est juste que vous êtes tous des cons, c'est point barre.
Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver de ce film?
Rien du tout. Oui, alors justement, je voulais parler de ça, c'est qu'en fait, à la fin, je vous le spoil encore plus. En fait, le personnage de Jonathan, donc le personnage principal, tout le long, il va se faire passer pour un Jonathan Lopez aussi dans le but de coucher avec son amour d'enfance qui sortait avec Jonathan Lopez, qui est hyper ravi de le revoir et tout ça. Et en fait, il va se lier d'amitié et il va avoir une petite relation avec une petite zouze. et en fait, qui sait pas qui c'est, enfin, qui était dans la classe, il dit « Ah, je me souviens pas de toi, moi non plus, tout ça. »
Ouais.
Qui reconnaît pas et tout. Et en fait, on se rend compte à la fin du film, ils s'embrassent à la fin sur le toit.
Ouais.
Et en fait, on se rend compte à la fin du film, et ça, c'est pas mal vu, qu'en fait, la fille dont il tombe amoureux, en fait, avec qui il va finir, c'est Jonathan Lopez qui a changé de sexe.
Ouais.
En fait, on dit que, enfin, dans le film, ils disent que... Donc, dans le déroulé du film, ils disent qu'il est parti en Thaïlande à la fin du bac pour faire du kickboxing. Et en fait, on comprend qu'il est parti en Thaïlande pour changer de sexe. Et il y a des petits indices comme ça dans le film. Et à la fin, on voit un tatouage que seuls les membres de la bande de beauf avaient et tout ça.
Ouais.
Ça, pareil, c'est un truc où tu te dis « Putain, c'est grave cool !» Mais le problème, c'est que du coup, au lieu de baser le film sur Jonathan Lopez, qui serait justement comment... lui, c'est le seul en fait qui a vraiment évolué, qui a vraiment changé, qui est plus dans les mesquineries d'avant, qui est vraiment, enfin elle du coup pardon, qui a vraiment pris du recul par rapport à tout ça, qui voit ça d'un œil amusé, comme un truc pas grave du coup. Du coup, tout ce regard-là, au lieu d'en faire un film sur la personne qui est du coup quelqu'un de transgenre ou du moins quelqu'un qui a changé de sexe, qui serait un truc hyper novateur, et ben on va en faire un twist de fin. C'est dommage. Vous pourriez faire un truc vraiment novateur sur quelqu'un qui change de sexe et comment tu affrontes tout ça. Bah non, on va le faire sur un mec maigre qui était gros. Mais niquez-vous. Putain, mais comme quoi, tu vois, c'est là aussi, je pense qu'il y a de la malhonnêteté et pas que juste de l'incompétence. C'est que, de toute façon, c'est soit des incompétents sympas, soit des gens malhonnêtes et cons. Donc j'espère qu'ils sont incompétents et sympas, mais je pense qu'il y a de la malhonnêteté parce que, tu vois, cette idée-là, ils l'ont eue. De faire que ce soit aussi un truc bah, sur le fait de changer, tu vois, de changer de sexe et tout ça. Mmh. Mais tu vois, c'est juste pour dire, oh regardez, on est des gens bien, on parle de changer de sexe, mais on va surtout pas faire un film dessus parce que ça va pas se vendre.
On vous le laisse à la fin.
Bande de connards, quoi. Enfin, franchement, faites un film dessus, putain, vous avez la chance de faire des trucs un peu originaux et tout ça. Voilà, c'est dommage. C'est dommage que Netflix est encore plus. Je suis encore plus déçu de la part de Netflix, qui est une plateforme nouvelle, encore assez jeune, qui pourrait se permettre de produire des films très originaux et des trucs un peu qui cassent les codes et qui est dans la nouvelle mouvance actuelle de des sujets sociaux, qui justement pourrait se passer du truc de « il faut un blockbuster qui va sortir au cinéma, il faut être rentable », parce que de toute façon c'est sur les abonnements Netflix et que justement, les gens qui sont abonnés à Netflix, c'est des gens plus jeunes qui sont plus soucieux de ces questions-là.
Puis ils ont le poids maintenant, Netflix, de faire ça. Hein.
Clairement, voilà, ils ont le fric et tout ça. Et ben, au lieu de faire des trucs un petit peu novateurs et un petit peu intelligents, ils font toujours les. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est que Netflix est en train de faire les mêmes grosses bouses que font les grandes productions françaises avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est le Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu de la génération 2.0, quoi. C'est le Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu de notre génération. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est destiné à des quarantenaires, cinquantenaires, soixantenaires de droite. Et ben, ce problème de ce genre de comédie, c'est que c'est destiné à des jeunes de 20 ans, de gauche, mais sauf qu'en fait c'est une connerie de droite tout autant, c'est de la grosse merde. Alors c'est pas pour faire un jugement de droite-gauche, hein. On s'en branle, de toute façon les humains sont des connards. Je vais arrêter là, parce que ce podcast c'est très très long,
ouais, alors
je suis
voilà,
désolé, mais on a explosé
et
bah très bien, voilà, bah voilà. Écoutez, allez voir la grande classe, c'est vraiment super.
Ça faisait...
Si, juste pour dire, bah, le film, dès le titre en fait c'est vraiment de la grosse merde, parce que la grande classe, pourquoi on appelle ça comme ça? Parce que c'est de moi avec une classe de cours, et que débile. Ah, ça m'énerve, pardon, je suis désolé. C'est vraiment des gros cons, et non mais en vrai, c'est peut-être, non mais juste pour finir, parce que je suis rentré très en colère, c'est peut-être juste, je suis pas comme sur les mecs de Robin Desbois, je m'en branle parce que c'est des Américains qui m'écouteront jamais, si jamais ça parvient aux gens qui ont fait ce film, c'est pas du tout pour vous juger personnellement, je suis désolé, c'est partie de la rubrique, pas du tout pour vous juger personnellement en tant que personne, c'est pas du tout ça, c'est juste que je trouve ce film, s'il n'est pas malhonnête, très maladroit, du moins.
Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu un coup de gueule d'Antonin aussi violent.
Je sue énormément.
Ouais, et là j'ai beaucoup reçu là.
Non, je sue.
Et moi j'ai reçu.
Ah d'accord, c'est beau ce que tu dis. Et donc du coup, juste avant de se détendre le cuir avec un bon petit karaoké, désolé, cet épisode est très très long, justement, voulez-vous dire que là il va y avoir un autre épisode du coup le 15 décembre,
ouais,
dimanche, sur bon, un thème qu'on ne spoilera pas mais qui est plutôt de saison. Petit teaser. Wow. Et juste pour vous dire, en fait, on lit tous vos retours de ça, mais on a tourné, voilà, on va faire l'envers du décor. On a tourné pas mal d'épisodes en avance parce qu'on n'habite pas ensemble, donc on peut pas forcément se voir quand il faut. On vous passe les détails. Ouais. Juste que voilà, beaucoup de vos retours vont être pris en compte à partir de la rentrée. Et à partir de la rentrée, il y aura peut-être voilà quelques nouveautés, une nouvelle façon de faire.
La rentrée de janvier, du coup.
Et la rentrée de janvier, pardon. Oui, à partir de la rentrée. Après Noël, à partir du premier épisode de janvier,
voilà,
on risque de changer un petit peu la formule, d'écouter vos commentaires. Donc continuez à nous faire des retours sur comment ça évolue et tout ça, mais vous inquiétez pas si les retours sont pas pris en compte tout de suite, c'est que voilà, on a tourné pas mal d'épisodes en avance, donc...
Exactement, donc...
vous n'écoutez pas du direct.
Voilà.
Voilà.
Et ben en tout cas, à bientôt.
Et ben merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, et puis à votre prochaine, à votre Blabla Couch. Bisous. Karaoke.
Alright,
are you ready, Remy?
Yes, I am, always.
Yeah, let's throw another brick in the wall. Let's go.
We don't need no education. We don't need no thought control. Dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Hey, teachers, leave them kids alone.
All in all, it's just another brick in the wall. You're just another brick in the wall.
Wrong, do it again. If you don't hit your face, you can't.
need no education. In the classroom,
I don't want any sarcasm.
Teacher, leave them kids alone.
Hey, teachers, leave them kids alone.
All in all, you're just another brick in the wall. Just another brick in the wall.
We don't need no education. Don't need it. We don't need no thought control. No sarcasm. Leave the kids alone. The solo de Rémi.
All in all, you're just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall.
Do it again.
Send this song to all the teachers you know. It was Blabla Couch.